Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Café. Vous écoutez le 135e épisode quand même de Tech Café que nous enregistrons le mardi 18 juin 2019. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Tech Café et qui découvriraient l'émission en écoutant ce premier épisode, sachez que c'est une émission qui vous permettra de tout savoir de l'actu tech, des petits sujets croustillants autour des smartphones, les choses qu'on met un petit peu en fin d'émission et les choses plus stratégiques et plus structurantes. Il y a notamment dans cet épisode une rubrique forcément autour de l'E3 où on va vous parler de toutes les tendances dans les jeux vidéo, évidemment sous un angle tech, mais il y a quand même besoin de parler de jeux vidéo pour en parler. On a aussi une rubrique, comme je le disais juste avant qu'on lance l'enregistrement de l'émission, qui est un peu la rubrique sérieuse, où on va vous parler d'espionnage et d'enjeux autour de la désinformation et de l'intelligence artificielle. On va encore parler évidemment de deepfake. Et puis une troisième rubrique où on va parler de la crypto-monnaie très tambour battant par Mark Zuckerberg, donc par Facebook, mais on va voir que c'est pas directement la crypto-monnaie de Facebook, on va en parler, c'est assez subtil, et puis il y aura encore énormément de choses à dire. Je pense que ça va être le feuilleton, non pas de l'été, mais des mois à venir, ce sujet, on en reparlera ensemble. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu?
Ça va très bien, très content d'être de retour.
Oui, très retour partagé. Tu sais, à chaque fois que tu t'absentes, j'ai toujours des messages en me disant « Oh, dommage, il n'y a pas Guillaume ». Donc, sache que tu es attendu à chaque fois et que c'est évidemment un plaisir, je pense, pour tout le monde de te retrouver. Pour discuter avec nous, justement, si jamais vous voulez continuer à garder contact avec Guillaume Poggiaspala, même quand il n'est pas là, vous pouvez discuter avec nous et entre vous sur le groupe Telegram, dont vous trouvez le lien dans les notes de l'émission. Vous pouvez aussi, et c'est évidemment très précieux pour nous soutenir dans le temps qu'on investit, dans l'énergie qu'on investit pour Tech Café, pour c'est ce qui devient un petit travail pour nous, quand même, de vous condenser toutes ces news et vous en apporter des regards critiques sur la plateforme Patreon. Vous pouvez participer si vous le souhaitez, il n'y a rien d'obligatoire, avec des toutes petites sommes après chaque épisode. C'est automatique, c'est sans engagement, c'est plafonnable. Je pense que tous les arguments sont de votre côté pour au moins aller jeter un coup d'œil. Et puis, autre élément aussi, avant qu'on attaque les news, vous pouvez réagir à l'émission et retrouver tous les liens sur les manières d'écouter le podcast sur techcafé.fr. Et donc, vous pouvez réagir en déposant un commentaire qui accompagne la publication de chacun des épisodes, comme par exemple l'a fait Mika, qui réagit au dernier épisode en nous... Alors, je cite son commentaire. « Pour Heartbleed et la NSA, j'ai l'impression qu'il y a une erreur dans vos propos. Vous dites « Des employés de la NSA ont corrigé cette faille », mais bon, apparemment, ils l'auraient exploité. » C'est effectivement Pierre-Olivier qui expliquait le fait que Android était une plateforme qui était développée évidemment par Google, enfin qui était beaucoup portée par Google avec les Google Play Services, mais surtout, il y a pas mal d'acteurs, dont Huawei, ils se sont fait fort de le rappeler, mais aussi la NSA qui contribue à travailler les aspects sécurité d'Android. Ah, effectivement, pour Earthbleed, c'est, et puis pour le cas de beaucoup d'autres failles, d'ailleurs, je pense qu'il y a une vraie ambivalence dans le cas de la NSA, qui a tout intérêt par certains aspects à contribuer à la sécurité de la plateforme, mais aussi, on l'a vu, exploiter des failles et de les garder sous silence et de les exploiter en secret. Donc il y a forcément un conflit d'intérêts. Comme tu le disais, Guillaume, juste avant qu'on enregistre l'émission, c'est un peu leur cœur de métier, effectivement, la NSA, donc on ne peut pas leur reprocher. Donc merci de nous avoir corrigé là-dessus, Mika. Sans autre forme de procès, on attaque donc avec cette première rubrique autour de l'E3. Et juste avant aussi que je te laisse la parole, Guillaume, pour que tu me dises et que tu nous partages ce qui t'a marqué pendant cette E3, ce que tu fais mieux que personne dans l'équipe de Tech Café, j'en profite pour confirmer le fait que je suis encore là pendant ces derniers jours dans une ligne droite de livraison de mon mémoire qui accompagne ma formation à titre perso. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup plus de mal à suivre toutes les news par rapport à d'habitude. Donc, ne m'en veux pas, Guillaume, si tu me dévoiles des scoops que je n'aurais pas vu passer. Allez, qu'est-ce qui s'est passé de marquant pour toi dans cette E3, Guillaume?
Mais au contraire, c'est un plaisir de te dévoiler les scoops. Oui, parce que l'E3, c'est fini, c'était du 11 au 13 juin. Donc oui, je sais, si t'as pas trop le temps de suivre les annonces, moi, je dois bien avouer que je suis un petit peu déçu, en fait.
Ah,
ben oui, mais c'est parce que je m'attendais à un truc précis que j'ai pas eu, et du coup, j'ai été globalement déçu malgré un salon qui finalement était plutôt réussi dans l'ensemble, quoi, tu vois.
Tu veux nous dire ce que t'attendais fébrilement et que t'as pas eu, ou...
Oui, d'ailleurs, tu l'as évoqué la dernière fois, hein, Microsoft Microsoft annonçait sa prochaine console, la Scarlett, et puis naïvement, moi, je m'attendais à voir la console, la machine, quoi, hein, et puis voir des jeux ou des démos en temps réel, estampillés next-gen, qui démontent, tu vois. Moi, ça me paraissait normal. Tu lances une nouvelle console, donc bah, qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu la poses sur la table, tu montres ce qu'elle sait faire, et auquel la génération précédente ne peut même pas rêver, et puis hop, ton chéquier sort tout seul de ta poche.
Ouais, c'est, voilà. Efficace.
C'est comme ça que ça marche, non ? Eh ben non, plus maintenant. En fait, Microsoft a été super vague à propos de la Scarlett. Hein. Sa config, ben, c'est exactement comme la PS5. C'est AMD, SSD, Ray Tracing, 8K, blablabla. En fait, absolument rien de précis, pas de design, rien de différenciant. Voilà. Et puis les jeux, ça a été des cinématiques, et puis encore des cinématiques. Alors ok, tu vois, le prochain Halo sur Scarlett a l'air très propre, mais franchement, on m'aurait dit que c'était de la Xbox One X, ça m'aurait pas choqué plus que ça. Et d'ailleurs, bah, je crois que c'est ça le truc, hein. Les sauts quantiques entre gènes, c'est fini, hein. Cette génération les a tués. Avec les PS4 Pro et Xbox One X, bah, c'est acté, et les consoles sont entrées dans leur dernière génération, plus ou moins, quoi. La rétrocompatibilité aidant, bah, un jeu va pouvoir tourner sur PS4, PS4 Pro et PS5, à juste divers niveaux de détails, mais bon, voilà, c'est quand même le même jeu. Et les constructeurs jouent un jeu dangereux, je trouve, d'ailleurs, eux-mêmes, puisqu'ils se vendent encore d'Xbox One X en ce moment. Il faut pas énerver les acheteurs actuels, et en même temps, il va falloir quand même les motiver à investir dans une Scarlett à un moment donné. Bon, évidemment, soyons pas négatifs totalement, hein, ça a quand même beaucoup d'avantages, hein. Il y a plus de jeux, il y a plus d'options pour toutes les bourses aussi. Les transitions sont plus fluides, voilà, pépère, quoi. Tellement pépère que je m'inquiète, d'ailleurs, est-ce que la flamme va y survivre ? Parce qu'on sait bien, ce que fait la routine, le ronron, la passion. Elle l'émousse, elle l'étouffe, voilà, la passion.
Dans toute histoire d'amour.
Mais oui, la passion, elle a besoin de variété pour survivre. Elle se nourrit d'audace, tu vois, de sensations fortes. Pouvoir jouer au même jeu en 1080, 4K ou 8K, selon ma bourse, est-ce que c'est bien suffisant pour m'exciter ? Pas vraiment, donc voilà.
Ouais, surtout que alors c'est quelque chose qu'on a déjà identifié un petit peu dans l'univers de la tech, plus particulièrement avec les smartphones, mais c'est le cas d'autres produits, évidemment les ordinateurs, les tablettes, mais j'ai l'impression qu'effectivement on commence à voir que les sauts de génération d'une console à l'autre sont évidemment très impressionnants quand on raisonne en teraflop, quand on raisonne en ray tracing, mais pour la perception du grand public, finalement la différence n'est pas forcément très importante. Je pense que c'est un élément qui fait que ça devient peut-être de plus en plus flou. C'est pas comme quand on passait de la NES à la Super NES, bien évidemment. J'en profite pour dire que si jamais vous n'avez pas lu Machine de jeu et surtout allez lire le livre de Guillaume Poggiaspala qui parle des processeurs, des consoles de l'époque, d'antan. Il y a cet aspect-là des choses sur les consoles de jeu, mais il y a aussi, je pense, toute une nouvelle génération de consoles basées sur le streaming. On en a déjà parlé aussi dans les précédents épisodes de Tech Café, mais on va sans doute en reparler ensemble, Guillaume. Ces deux phénomènes qui font sans doute que l'industrie est peut-être en train de se regarder un peu en chien de faïence aussi, non ?
Oui, bah oui, c'est vrai que les plus gros changements risquent bien de se passer sans console du tout, dans un avenir qui sera plus ou moins lointain, quoi. Alors, on peut quand même revenir un petit peu sur les grandes conférences rapidement, hein, pour dire ce qui nous aura marqué. Donc voilà, pour Microsoft, il y a eu Scarlett, mis à part. Il y avait évidemment du Gears of War, il y avait du Halo, il y avait du Minecraft Dungeon, une surprise en ce qui me concerne. Donc c'est du Diablo, mais dans l'univers de Minecraft, sauf qu'on peut pas péter les blocs, ce qui m'étonne un petit peu pour Minecraft.
C'est mais tout l'intérêt de Minecraft.
Oui, exactement. C'est... Alors le truc qui m'a fait le plus plaisir, moi, c'est le retour de Flight Simulator. Je sais pas si t'as vu, je sais pas
alors,
si tu connais.
Alors si, alors sur les éléments de veille que j'ai vu passer, j'ai vu une vidéo magnifique. Alors
ouais,
on est
incroyable.
Souvent dans l'analogie entre le jeu vidéo et la vidéo tournée au film, au caméscope, quoi, ou à l'appareil photo. Là, c'est extraordinaire en termes de rendu, je trouve.
Oui, bah écoute, moi j'ai joué à plein de versions de Flight Simulator pendant plus d'une décennie. Et en 2006, hein, c'est le dernier, c'était vraiment cool. Puis depuis, je crois que c'est un petit peu X-Plane qui a repris le flambeau. Et le moteur de Flight Simulator est utilisé dans P3D, je crois, il me semble, qui est devenu un produit pro. Alors, c'est vrai que c'est vraiment magnifique, c'est photoréaliste, ça promet vraiment beaucoup. Hein, ça va être basé sur le cloud Azure, sur des photos satellites qui ont été, enfin, tu vois, réagrégées par intelligence artificielle pour créer un environnement qui, à mon avis, vraiment, ça donne envie. Quoi. Pour le coup, c'est moi ce qui m'a le plus beauté chez Microsoft, bizarrement.
Ouais.
Bon. Après, il y a eu Nintendo, donc il y a eu une Treehouse, évidemment, et puis il y a Nintendo Direct. Hein, il s'est débrouillé pour voler le show, ou presque, hein, puisqu'avec il y avait quand même ses franchises inoxydables, il y avait Luigi's Mansion, le troisième, Pokémon et quand même deux Zelda, donc une suite directe à Breath of the Wild, et puis mon petit chouchou, Link's Awakening, en version trop choupie. il est vraiment très très joli. Et c'est vrai que ça donne envie de s'y replonger, quoi.
C'est le Link's Awakening qu'on a connu sur Game Boy.
Tout à fait.
Et en fait, on a toute la saveur du jeu, mais avec la puissance de graphisme moderne, en fait.
Oui, exactement. C'est extrêmement coloré, extrêmement mignon. Tout est en 3D cette fois. Et bon, voilà, vous pouvez aller les images, vous avez immédiatement envie de plonger dedans. Il y a eu aussi d'autres licences, il y a eu Fire Emblem par exemple, qu'on connaissait déjà, Animal Crossing qui a été retardé, Trials of Mana, et un truc assez fou, The Witcher 3, qui est quand même incroyablement porté sur Switch, dans une version plus moche que la moyenne, c'est sûr, mais c'est quand même une prouesse hein, de rendre portable un jeu de ce calibre, c'est assez fou, sur une seule cartouche en plus, c'est vraiment, vraiment impressionnant.
Mais ce que je trouve génial, moi, c'est que typique. Bon, c'est un jeu, moi, que je trouve très intéressant vu de loin, parce qu'en plus, il y a le jeu de rôle là qui est en train d'être créé, le jeu de rôle sur, pardon, sur table, appuyé sur The Witcher. Et c'est souvent qu'on en entend parler, mais j'ai jamais eu l'occasion d'y jouer parce que j'ai pas de console puissante. Par contre, avec une Switch, je me demande si ça me donnerait pas envie de tester ce type de jeu. Bon, si un jour j'ai du temps, évidemment, ça c'est, il faudra trouver du temps.
Les autres conférences restent 200 heures, oui.
Ouais, ça demandera un petit peu de temps. Mais alors, du coup, les autres conférences.
Oui, il y a eu les conférences Ubi, Bethesda et Square Enix aussi. Il y avait pas mal de suites. Il y a aussi une nouvelle licence quand même, comme Gods and Monsters chez Ubi, qui est une sorte de le Zelda d'Ubi, quoi, dans la Grèce antique. Ou Ghostwire Tokyo, qui m'a le plus intéressé chez Bethesda, en l'occurrence. Bon, là encore, on avait quand même la maladie du salon, c'était la cinématose. Tu sais, avec la VR, il y a la cinétose. Là, c'est la cinématose. C'est un syndrome de plus en plus courant hein, qui consiste à confondre le jeu et séries télé. Tu vois, tu montres que des bandes annonces et images de synthèse pour vendre un produit qui est censé être interactif quand même à un moment. Bon. Donc, c'est quand même très dommage. Je sais pas s'il y a des titres qui tomberont chez toi, chez Ubi ou Bethesda, je sais pas, Doom Eternal ou alors.
C'est partie des éléments que j'ai pas suivi. Par contre, sur l'aspect diffusion de gameplay qui est mis vraiment au second, voire troisième, voire énième plan par rapport au cinéma. C'est peut-être aussi ce qui fait vendre, effectivement, mais on perd le côté jeu vidéo et on a tendance à penser que les annonces de jeux vidéo ressemblent de plus en plus à des bandes annonces de films. Je m'étais déjà fait cette réflexion quand il y avait eu les bandes annonces à l'époque de Red Dead Redemption 3, le 3. Vraiment la différence
c'est le 2,
excuse-moi, je vais un peu vite en besogne, je suis un peu dans le futur. Non, quand il y avait eu le 2, déjà c'était quelque chose d'assez bluffant sur le plan de la cinématique, je trouvais. Donc,
ouais, complètement.
Mais non, sinon j'ai pas suivi. Si, Bethesda, est-ce que c'est pas eux qui ont annoncé quand même une forme de framework pour les jeux vidéo aider au streaming?
Oui, tout à fait. Il y a un petit peu de technique avec ID Software qui ont fait leurs intéressants avec Orion. Orion, c'est un ensemble d'outils logiciels pour les développeurs hein, qui permettent d'optimiser un jeu pour le streaming. Et Doom Eternal, c'est un petit peu la démo de cette technologie, puisqu'il tourne sur Stadia en l'occurrence, et il tourne très 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 bien. Pourtant, tu sais que Doom, c'est un truc où il faut du 60 FPS. Et bien sûr, hein, c'était pas seulement le salon des cinématiques, hein, c'était aussi le salon des abonnements. Et oui, on aime ça, les abonnements. Après les 18 abonnements pour tes séries télé, les 14 abonnements à tes sites internet et logiciels de retouche photographique ou de bureautique, voilà 12 abonnements pour jouer à tes jeux vidéo préférés. Oui, parce qu'il y a quand même Stadia, xCloud, PlayStation Now, le cloud gaming est dans les starting blocks, hein, carrément, et un ordre dispersé quand même, parce que bon, toutes ces offres ne correspondent pas à la même chose. Et pour le moment, celui qui est plus avancé, c'est pas nécessairement celui qui a l'offre la plus intéressante, hein, puisque... Je pense pas qu'on en ait parlé sur tes cafés, mais Stadia donc a eu
J'en ai touché quelques mots, mais c'est vrai que c'était très en surface.
Peut-être, mais en tout cas, il te propose de payer $10 par mois pour faire tourner tes jeux et véhiculer tout ça par ta connexion internet. Mais les jeux, par contre, tu dois les acheter toi-même sur un store Stadia.
C'est pas un Netflix du jeu vidéo. Hein.
Pas du tout. Et les jeux doivent être prévus pour, doivent être reprogrammés pour. Donc c'est à toi de programmer les titres que tu aimes un par un ou via un abonnement comme le Uplay Plus, par exemple. Au hasard, pas du tout au hasard, puisque Ubi est partie prenante dans Stadia. Hein. Donc pour $15 par mois, tu auras accès à 100 jeux Ubisoft. C'est bien, mais donc c'est $25 par mois pour jouer à des jeux Ubisoft uniquement. Bon, dans d'excellentes conditions, si tu as un débit qui est assez puissant, puisque c'est 35 mégaoctets seconde, non, mégabits par seconde, pardon, pour jouer en 4K à 60 FPS. Mais bon, le problème, c'est que si tu veux jouer au prochain FF7 Remake, eh ben, il te faudra l'acheter ou peut-être passer par une offre d'abonnement de Square Enix qui, ben, sans surprise, hein, travaille aussi sur ce type d'offre. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? $25 par mois, c'est quand même $300 par an. Ben, c'est à peu près le prix d'une console, en fait. Hein. En 3 ans de Stadia tout seul, tu rembourses une PS4. Ouais. Si t'en as pas, tu vois, t'as pas de machine, t'as pas non plus jamais eu de jeu à prêter, donner, revendre, ni rien. Bon, voilà, c'est un petit peu comme ça. Alors, xCloud, pour Microsoft, c'est un service qui est très analogue à Stadia. Il y a aussi le Xbox Game Pass, qui est, lui, analogue à Uplay+. D'ailleurs, est-ce que s'abonner à xCloud, est-ce que ça va donner accès au Game Pass automatiquement ? Mystère, bon, pour l'instant, c'est très, très nébuleux. xCloud est techniquement tout à fait au point, mais on n'en sait pas vraiment plus, donc voilà. Du coup, alors, jeu comment ? En disque, en dématérialisé, en téléchargement, en streaming, via quelle plateforme de streaming ? Par abonnement, par one-shot ? Le futur du jeu vidéo s'avère assez peu lisible, j'ai l'impression, et pas forcément plus économique pour le joueur qui va devoir prendre sa calculatrice et faire des petites simulations exactement comme si tu voulais prendre un crédit pour choisir à quoi jouer et comment. Je sais pas si c'est vraiment un progrès.
Moi, je perçois un ras-le-bol autour de moi, et c'est évidemment du doigt mouillé de Guillaume qui vous parle, hein, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un ras-le-bol de la part de tous les consommateurs pour les abonnements qui se rajoutent. Je pense que ça va être le cas aussi, on en parlait pour les diffusions en streaming. Aujourd'hui, il y a Netflix, il y a Amazon Prime Video, mais demain, il y aura Disney+. Il commence à y avoir des surcouches de services par abonnement qui rendent les choses très, très peu lisibles. Donc on verra ce que ça donne. Juste un petit mot quand même pour dire que Stadia, effectivement, c'est 9,99€ par mois. Tu as quand même la possibilité de souscrire à la version Stadia base, qui est gratuit, lui, qui sera disponible l'année prochaine et qui propose quand même une résolution jusqu'à 1080p. Alors, est-ce qu'ils vont pas te compresser le truc pour te donner envie de passer à la caisse ? Je sais pas, parce qu'on incriminera plus facilement notre connexion web plutôt que les serveurs Google, va savoir. Du 60 FPS, du son qui n'est pas surround 5.1 mais qui est du son stéréo avec le même modèle économique qui est que en gros tu dois acheter ton jeu en dématérialisé à distance. Mais je trouvais que l'offre Stadia base, c'est quelque chose sur lequel peut-être on s'est pas suffisamment attardé, parce que pour le coup tu peux ne pas acheter de console là. Pour le coup, tu peux juste acheter certes une manette, un Chromecast, tu achètes ton jeu à distance, mais derrière, tu vois, t'as pas cet aspect abonnement qui remplace un abonnement console. Est-ce que c'est pas quelque chose que t'aurais envie de tester Stadia en version gratuite?
Éventuellement pour des démos en particulier, ou éventuellement oui. Des jeux pas trop chers comme ça qui passent, tu vois. Mais moi, j'ai toujours un petit tu vois, acheter 70 balles un jeu à streamer. Je sais pas.
Ça se revend moins bien sur le bon coin déjà.
Exactement, et puis il y a des contraintes supplémentaires. Il faut quand même avoir une bonne connexion tout le temps. Il ne faut pas oublier que les connexions, même si bon, moi j'ai une bonne connexion parce que je suis en centre-ville, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès. Et puis il y a surtout aussi des gens qui ont pas une bonne connexion mais qui peuvent fluctuer. Et tu vois, c'est pas si évident que ça. Si t'as pas, par exemple, si tu es en Wi-Fi, que tu n'es pas seul à la maison et que les gens utilisent le réseau pour streamer, etc., tu peux avoir des grosses fluctuations de débit qui vont te donner de grosses fluctuations de qualité. Quoi. Bon, je demande à tester quand même avant dans des conditions réelles de chez moi, en fait, pour pouvoir te répondre vraiment.
Ouais, il faudra faire des tests, effectivement. Bon, on verra, on en reparlera quand ce sera concrètement utilisable chez nous. Un petit mot autour de l'écosystème du jeu vidéo chez Amazon, parce qu'il y a quelques petites news, alors pas vraiment consommateurs, mais des choses qui nous laissent imaginer que les décisions chez Amazon sur le jeu vidéo sont à prendre en considération, Guillaume.
Ben oui, pendant ce temps, c'était pendant l'E-Cube, c'est assez malheureux, la division de jeux Amazon se réorganise et on licencie malheureusement, donc il y a plusieurs dizaines d'employés qui seraient priés de quitter Amazon Studios et de trouver d'autres emplois chez Amazon, alors qu'un jeu qui n'a même pas été encore annoncé est déjà annulé. Donc la division a été fondée en 2014 et encore rien sorti, donc elle va quand même se focaliser sur New World et Crucible, donc c'est deux gros jeux, en particulier ce jeu en ligne New World. Sur la MMORPG, quoi. Et voilà, Amazon assure conserver le plus grand intérêt pour le jeu vidéo. Le timing est quand même très très malheureux. Bon. Par ailleurs, puisqu'on parle d'Amazon, je sais pas si t'as vu passer, mais un article de BuzzFeed attaque les fameux Amazon Choices, les produits recommandés comme un bon rapport qualité-prix hein, par Amazon lui-même. Donc, outre le fait que personne connaît réellement les critères qui font passer le produit en Amazon Choice, BuzzFeed a passé en revue des douzaines de produits complètement foireux qui portent pourtant le petit macaron de question. Hein, donc, voilà. En gros, on trouve des produits Amazon Choice avec des reviews bidons, des trucs qui correspondent pas. Donc, voilà. Ça protège pas trop. Donc, en passant, ne vous fiez pas trop à ce label. Hein, et puis, allez voir l'article si vous voulez, c'est assez marrant.
Ouais, ne confondez pas hein, les produits Amazon sur lesquels on peut critiquer aussi, hein, d'ailleurs c'est pas interdit, mais qui sont on va dire construits ou brandés Amazon comme il y a les marques distributeurs dans les grandes surfaces, et les Amazon Choices qui peuvent être la même chose, mais qui peuvent être aussi des choix Amazon de certains produits par rapport à une requête que vous faites, par exemple n'importe quel appareil, d'ailleurs il y a plein de listes dans l'article de BuzzFeed. C'était intéressant de voir, c'est un peu les côtés obscurs d'Amazon. Amazon c'est un peu comme une belle ville, il y a des belles vitrines, des beaux immeubles, et puis il y a les bas-fonds de la ville, donc il faut faire attention. Un petit mot sur Konami aussi, pendant qu'on est dans l'univers du jeu vidéo, Guillaume.
Oui, Konami, lui aussi, hein, il sort sur la vague des consoles mini, puisqu'il va proposer les PC Engine Mini, ou Core Graphics, comme on les a connus, nous, à l'époque. Et d'ailleurs, pour les États-Unis, ce sera la TurboGrafx 16. Donc, c'est pas une console qui a été très, très vendue en Europe et en Occident en général, mais ça a été un énorme succès au Japon, la PC Engine. Et il y a énormément d'excellents jeux dessus. Et c'est vrai que pour tous ceux qui sont un petit peu nerds de ce truc-là, c'est une bonne nouvelle. Parce que c'est pas très facile en fait de trouver des jeux et une console à l'heure actuelle à bon prix quoi, surtout en Occident. Et donc c'est pas mal. Donc il y aura trois designs, hein, la design PC Engine pour le Japon, Core Graphics pour l'Europe et TurboGrafx 16, donc plus gros parce que États-Unis pour les Américains. Alors, ce qui est marrant, c'est que ce sera des PC Engine Mini, alors qu'en fait, la console était déjà de loin la plus petite de sa génération et probablement la plus petite console de l'histoire. C'est une console qui avait des petites cartes de jeu comme ça, format carte de crédit. C'était voilà, une des plus mignonnes et plus puissantes des consoles de l'époque. C'est plutôt marrant, donc on a déjà une liste de jeux. Alors, bon, le problème, c'est que Super Star Soldier, il est sur la version japonaise, il sera peut-être pas sur la version... américaine, et donc c'est complètement enfin, version européenne, et c'est complètement débile, mais bon, voilà, peut-être un truc assez marrant quand même, assez sympa.
Tu vas essayer de te procurer la version japonaise du coup.
Ah, si je me procure une, probablement.
Si t'en prends une, effectivement. Dernier mot aussi pour les jeux vidéo, parce qu'on a un robot, un extraterrestre, un homme qui est venu prendre la parole, parler de jeux vidéo. C'est intéressant à suivre, par contre.
À l'E-Cube, il y avait Elon Musk, et oui, donc on a en conclu avec une musquerie, car il était à l'E-Cube, il a discuté avec Todd Howard, le créateur de Skyrim ou Fallout 4, hein, donc quand même un grand game designer, et il en a profité pour annoncer Fallout Shelter pour Tesla, et bientôt Beach Buggy Racing 2, qui sera jouable au volant de la voiture. Oui, si la voiture est arrêtée, bien entendu. Donc voilà, bon, alors comme c'est Elon Musk, évidemment, il a raconté sa vie et dit à quel point les jeux vidéo lui ont donné le goût de la programmation et que c'est très important comme phénomène culturel, quoi. Et il continue à remettre en question notre réalité aussi, avec sa théorie de la simulation. Sommes-nous des NPC dans un super jeu vidéo cosmique? Voilà, si nous sommes-nous des NPC dans la partie d'un extraterrestre dont l'avatar est Donald Trump, je commence à me le demander. Alors, il faut dire que fake news, manipulation avec ou sans deepfake aidant, c'est vrai que la vérité, la réalité semble de plus en plus difficile à cerner, hein, au point que selon une étude de Pew Research, la moitié des Américains considèrent que c'est un gros problème, que les fake news sont un gros problème, et 66% que ça influe beaucoup sur la confiance dans le gouvernement, par exemple. Donc c'est un vrai gros souci réel, je pense.
Ah, c'est un des enjeux de société hyper concrets, qui a des impacts très concrets, et qui tient ses origines dans l'univers de la tech, dont on parle évidemment chaque semaine dans Tech Café, mais il y a des répercussions très concrètes pour nous tous. C'est une raison de plus pour laquelle il faut se tenir informé des sujets de la tech, et donc, évidemment, d'écouter Tech Café. On enchaîne justement, c'est parfait cet appel du pied pour nous décrire la réalité. Tu cites Donald Trump, tu parles de fake news. Les fake news, donc on va continuer à en parler, puisque il fallait s'y attendre. Hein, on aurait presque pu meser un petit billet sur cette news. Mais effectivement, on a les éléments qui nous permettent d'établir que la Russie a mené une campagne de désinformation durant les européennes. Guillaume, ils ont rejoué leur coup qui commence à fonctionner à chaque élection maintenant.
Ouais, alors la Russie a mené une campagne de désinformation continue et soutenue contre les récentes élections législatives européennes. C'est ce qu'a remporté l'Union européenne elle-même à travers un rapport qui a révélé donc que la Russie cherchait à influencer le comportement des électeurs, dans certains cas même à limiter la participation électorale. Donc c'est le rapport qui date de vendredi dernier, il indiquait que l'ingérence russe dans les campagnes parlementaires couvrait un large éventail de sujets allant de la contestation de la légitimité démocratique à l'Union européenne, à l'exploitation de débats publics qui divisent sur des questions telles que la migration et la souveraineté, je cite. Donc il y avait une tendance constante d'acteurs malveillants à utiliser tout ça pour promouvoir des points de vue extrêmes et polariser les débats locaux, y compris les attaques sans fondement. Alors par exemple, les Russes se sont accrochés à l'incendie d'avril qui a détruit Notre-Dame de Paris, enfin en tout cas une partie du toit de Notre-Dame et la Flèche, pour pousser l'idée que les valeurs occidentales et chrétiennes sont en déclin dans l'Union européenne. Ou encore, ils ont aussi accusé le gouvernement de l'Autriche d'être tombé dans un état européen profond. Donc cette idée d'état profond qu'on retrouve chez certains allumés américains, et tous ceux qui sont adeptes de QAnon et compagnie, qui commence donc à arriver aussi en Europe, qui est assez inquiétant, évidemment. Alors, le rapport indique par contre que les grandes entreprises, donc comme Google, Twitter, Facebook, ont pris des mesures pour lutter contre la désinformation, et il ajoute que les plateformes doivent faire plus pour lutter effectivement contre les fake news, mais qu'elles sont quand même en progrès, donc c'est quand même pas mal. Il y avait un effort continu de la Russie pour cibler quotidiennement les Européens. Hein. La tendance, c'est qu'au lieu de, faire des gros trucs, des gros, enfin, tu vois, des coups d'éclat, mmh. ben, en fait, il est préférable d'avoir une approche personnalisée, très ciblée, en particulier des faux comptes et des robots qui amplifient le contenu qui divise déjà, tout simplement. Mmh. Bon, voilà, c'est à l'heure actuelle, en fait, ils ont vu qu'il y avait deux fois plus d'articles trompeurs en provenance de la Russie au cours des mois précédant l'élection qu'à la même période de l'an dernier.
C'est vraiment déroutant de se dire que c'est toujours facile quand c'est une situation à l'étranger d'un pays qu'on observe, l'ingérence russe aux États-Unis quand on le voit de l'extérieur, et finalement... Ben, quand ça nous touche plus directement, je ne suis pas certain qu'on soit aussi bon pour avoir du recul sur ces éléments-là. Donc, dans quelle mesure est-ce qu'on n'a pas tous été individuellement, effectivement, influencés pour tout ou partie ? C'est intéressant à suivre, évidemment. Et je suis sûr que ce type de news, on va continuer à en avoir dans les semaines à venir en rétrospective aux élections. Donc, à suivre. Une attaque sur Telegram. Rassure-moi, Guillaume, le groupe Telegram de Tech Café va bien ?
Oh, lui, il va très bien. Mais quand même, le fondateur de Telegram, Pavel Durov, a laissé entendre que le gouvernement chinois était peut-être à l'origine d'une récente attaque DDoS, donc Denial of Service. Donc c'est voilà, une attaque qui vise à mettre par terre les sites web en leur envoyant énormément de requêtes simultanément qu'ils ne peuvent pas gérer. Donc voilà, il écrivait sur Twitter que un DDoS de cette taille-là, ça vient d'un acteur étatique. Quoi. Ça prenait principalement d'adresse IP située en Chine. Et donc l'attaque, il a noté que ça coïncidait avec les manifestations en cours en Hong Kong, où les gens utilisent des applications de messages cryptés comme Telegram ou FireChat pour éviter d'être détectés, hein, pour coordonner leurs manifestations. Donc voilà, c'est ce qu'il dit dans son tweet. L'attaque soulève la question de savoir si le gouvernement chinois tente vraiment de perturber le service de messagerie ou juste de limiter son efficacité. Alors bon, on sait qu'à Hong Kong, c'est en train de... Bon, bah, on sait pourquoi les Hongkongais sont dans la rue. C'est vrai que c'est tout à fait plausible. Après, il n'y a pas vraiment de preuves directes non plus.
Des éléments de suspicion, on va dire. Toujours dans de l'ingérence des États dans les réseaux étrangers, cette fois-ci de l'autre côté de l'Atlantique, avec des activités américaines à destination des infrastructures russes.
Oui, la Russie met en garde contre une cyberguerre à la suite d'un rapport selon lequel les États-Unis ont attaqué leur réseau électrique. Donc c'est arrivé deux jours après que le New York Times ait rapporté que le cybercommandement américain, c'est le bras du Pentagone qui dirige les opérations offensives et défensives sur online, tout simplement, donc a intensifié de manière assez agressive son ciblage du réseau russe. Donc le rapport indiquait que le commandement avait pris des mesures pour placer des logiciels malveillants potentiellement paralysants à l'intérieur du système russe, à une profondeur et avec une agressivité qui n'avait jamais été essayée auparavant, je cite. Donc, dans certains cas, selon le New York Times, le Pentagone et les services de renseignement hésitaient à informer le président Trump en détail, même, des activités, par crainte qu'il annule les opérations ou en discute avec des responsables étrangers. Bon, en gros, qu'il lâche échapper des infos sans faire exprès. Bon, l'année dernière, Trump a donné au Cyber Command pourtant plus de latitude pour mener ses opérations offensives. Donc, bon, après, honnêtement, il faut prendre avec des pincettes. Il y a certains analystes qui ont mis en doute le rapport du New York Times, parce que, tout simplement... Si c'est des trucs aussi sophistiqués que ça, c'est quand même étrange que ça apparaisse dans le journal, tout bêtement. Parce ouais, que ça veut dire que, évidemment, en face, ils vont passer en mode alerte maximale et tout scanner au bagne fin. Et donc, la durée de vie des implants est dramatiquement plus faible, ce qui est un petit peu dommage pour des implants qui, évidemment, coûtent quand même très cher à implanter, puisqu'il faut payer les super agents qui font ce genre de trucs. Donc, c'est un petit peu, pour rester dubitatif là-dessus, mais après, l'ambiance, c'est un petit peu à ça, quoi. Un jour après, il y a des chercheurs de la société Dragos qui ont déclaré que les pirates, à l'origine d'au moins deux intrusions dangereuses dans des installations industrielles, ont étendu leurs activités à l'exploration de dizaines de réseaux électriques aux États-Unis. Et bon, en gros, les incursions numériques de plus en plus offensives à des États-Unis chez les Russes s'inscrivent dans une vision plus large qui vise à faire payer à la Russie et à d'autres adversaires, hein, d'ailleurs, le prix des cyberopérations qui sont menées contre eux. Donc voilà, c'est donnant-donnant, on a l'impression tout simplement qu'il y a la cyberguerre, plus ou moins, elle est déjà en route, et voilà quoi.
Ouais, la cyberguerre a commencé depuis un petit moment.
Ouais, ça date d'Obama en fait, hein. C'est suite aux révélations de 2016, hein, selon lesquelles les pirates russes ont violé le Comité national démocrate. Obama a secrètement ordonné une sorte d'action d'envoi de messages, on va dire, à l'intérieur du réseau russe. Les détails n'ont jamais été rendus publics, mais bon, voilà, il y a un journaliste qui a écrit là-dessus. On ne sait pas si beaucoup a été accompli, quoi. Ça, et en plus, bien sûr, récemment, Trump qui a lui aussi signalé une attitude plus agressive, comme j'ai dit, quoi.
Ce serait intéressant de pouvoir se projeter dans 30, 40 ans où on aura plus de recul historique sur tout ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'en plus, c'est une partie immergée de l'iceberg. Allez, on va parler de deepfake. Ça fait un petit moment, Guillaume, qu'on n'a pas parlé de deepfake. Notamment, alors pour rappeler, hein, ces deepfakes, c'est la possibilité de générer, grâce à des algorithmes évolués, des simulations de personnes qui pourraient prendre la parole en vidéo et donc bah, de faire penser que telle ou telle personnalité tient tel ou tel propos dans telle ou telle situation en utilisant des sortes de modèles qu'on réapplique à des séries d'images des personnalités en question qu'on a choisies. Évidemment, se pose maintenant la question de la détection de ces deepfakes et c'est pas gagné, c'est pas gagné d'avance, Guillaume.
Deepfake, c'est vrai que quand c'est sorti l'an dernier, ça avait un sens assez précis parce qu'il y avait un algorithme dont on parlait, hein, c'était le face swap sur les vidéos, qui permettait donc de changer le visage d'une actrice porno, en l'occurrence, mais bon, évidemment pas seulement. Et là, en fait, au fur et à mesure des mois qui se passent, il y a de plus en plus d'algorithmes qui arrivent, des algorithmes qui se basent en grande sur le deep learning, mais pas seulement d'ailleurs, et qui permettent de manipuler les vidéos, voire de synthétiser des vidéos de nouvelles manières, et qui donc permettent de falsifier des vidéos au sens large, avec des moyens qu'on n'avait juste pas du tout auparavant et qui se démocratisent très très rapidement. Et donc, évidemment, la désinformation avec ça, c'est forcément, c'est du pain béni pour tous ceux qui ont envie de propager des fake news. Donc, trouver des outils de défense contre ça, en particulier avant l'élection US de 2020, ça devient assez critique, quoi. D'ailleurs, il y a dans d'autres pays, il y a des fake politiques qui ont déjà fait surface. Il y a une vidéo d'Ali Bongo, dans laquelle, je l'ai vu d'ailleurs, dans laquelle il ne cligne jamais des yeux, et qui est d'ailleurs largement considérée comme un fake. Et ça a été quand même le déclencheur d'un coup d'État. Tu vois, en Malaisie, il y a un homme qui avoue face caméra avoir eu des relations sexuelles avec un ministre, mais pourtant sa corpulence ne colle pas. Donc fake ou pas fake? Donc ça a déjà commencé. Et les contre-mesures aussi, hein. Donc, on avait déjà parlé de ce critère simple des clignements d'yeux. Alors les deepfakes de l'époque donnaient des visages qui clignaient pas, ou peu. Et c'était Siwei Liu, de l'université d'Albanie, hein, qui avait eu cette petite victoire, qui a malheureusement duré que 2 semaines, puisqu'il a reçu après un mail d'un créateur des deepfakes qui lui annonçait qu'il avait trouvé la parade. Donc voilà, ça c'est foutu. Et donc aujourd'hui, bah, y a un espoir avec donc, de nouvelles méthodes, en particulier les soft biometrics. Donc c'est une méthode d'analyse fine du langage corporel. En gros, tu prends des heures de vidéo de toi qui parlent d'un peu tout, voilà, et puis l'algo dresse un portrait de tes mimiques et gestuelles. Donc il y a la direction du regard, la position de la tête, évidemment.
Les clignements des yeux.
Les clignements des yeux, bien sûr, toutes tes mimiques, ta bouche, voilà, tout est passé en revue. Et l'algo est si subtil qu'un acteur aurait énormément de peine à imiter suffisamment bien sa cible pour passer au travers de ce crible-là, quoi. Donc c'est Hani Farid et son équipe à Berkeley qui ont fait des deepfakes eux-mêmes pour tester la validité de leur approche, et ça marche bien. Par contre, bon ben voilà, il faut dresser le profil, et pour ça, il faut scanner et passer à la moulinette des heures de vidéo pour chaque personnalité. Donc, c'est faisable, mais c'est long, et rien n'indique pour le moment que ça détecte, d'autres types d'algorithmes dont on va parler d'ailleurs, justement, après. Parce que bon, globalement, les chercheurs s'en cachent pas, hein, ils sont dépassés. D'abord parce que le nombre de gens qui travaillent dans ce champ-là, le champ de la détection, ben, il est 100 fois plus limité que celui d'en face. Tout le monde veut créer des algos, hein, qui est des trucs révolutionnaires, qui fabriquent des choses nouvelles, tu vois. La détection, c'est toujours beaucoup moins sexy. Et ben, finalement, il n'y a que la DARPA, hein, qui investit en tant soit peu là-dedans, parce que ils considèrent ça comme des armes de défense, ce que c'est, hein. Et puis bon, il y a les images qui sont manipulables, mais il y a aussi les textes qui deviennent synthétisables à l'envi. On avait parlé de GPT-2. En guise d'illustration et d'alarme, sans doute, il y a d'autres chercheurs qui ont utilisé un algo assez analogue sur les discours d'hommes politiques à l'ONU. Donc évidemment, t'imagines, les discours d'hommes politiques à l'ONU, il y en a des heures à des heures, il y a du matériel. Donc, après avoir digéré plusieurs mois de discours de l'Assemblée Générale des Nations Unies, l'algo peut imiter, pour un ou deux paragraphes, le style et les opinions d'un chef d'État. Les exemples qu'il montre sont assez intéressants. D'ailleurs, l'article est assez facilement lisible parce que c'est du... voilà quoi, c'est, il n'y a pas énormément de technicité dedans, donc c'est vrai que voilà, si vous pouvez aller voir, je ne sais plus exactement si le lien est direct ou s'il faut cliquer plusieurs fois, mais bon voilà, j'essaierai de le mettre dans les notes de l'émission.
Dans la rubrique, dans la deuxième rubrique, je donne jamais le titre parce qu'il faut que vous alliez voir la façon dont sont libellés les textes, les titres des rubriques et les textes des news que Guillaume prend le soin de sélectionner. C'est marrant cette course au chat et à la souris, hein, du deepfake qui fait vraiment penser à cette course, par exemple autour du piratage, mais de plein d'autres éléments dans l'univers de la tech, où il y a, grâce à l'arrivée de nouvelles technologies et de nouvelles ressources, la possibilité de remettre en question ce qui était établi, et du coup, en face, la course aussi aussi à la détection derrière. Et je trouve aussi intéressant de relever dans ce que tu dis le fait qu'il y a besoin déjà de pas mal de matériel pour arriver à imiter quelqu'un avec des deepfakes, mais il y a aussi besoin de autant de ressources pour détecter les deepfakes. Donc finalement, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de parler des mêmes personnes emblématiques et qu'aujourd'hui, le deepfake a besoin de suffisamment de quantité de données pour qu'il ne concerne pas de manière crédible tout un chacun. En tout cas, tant qu'on ne diffuse pas des vidéos de soi-même en selfie sur Instagram, en live. Donc on a encore le temps de voir venir pour que ça concerne vraiment tout le monde. Mais là, on est quand même sur des sujets qui concernent très nettement des personnalités. Et donc, les enjeux dont tu as parlé à l'échelle politique sont assez évidents à deviner. Et d'ailleurs, ça va concerner, tu voulais nous parler d'un autre algo. Et pourquoi pas les présentateurs télé demain?
Oui, tout à fait. Donc je parlais effectivement de nouveaux algos. Là, on va passer en revue quelques nouveautés. Donc c'est des algos pour modifier des vidéos, hein, donc pour faire des deepfakes en quelque sorte. Même si les travaux donc d'une équipe qui regroupe les chercheurs de Princeton, Stanford, l'Institut Max Planck et Adobe d'ailleurs aussi, ont un but vraiment spécifique, hein, c'est éditer une vidéo, alors typiquement une vidéo de présentateur télé ou un monologue d'un acteur, aussi simplement qu'avec un traitement de texte. Donc voilà, la vidéo jointe à l'article d'ailleurs montre et explique très bien les capacités de la méthode. Hein. Donc voilà, tu supposes qu'un acteur se trompe dans le texte, donc voilà, il parle face caméra, et je sais pas, il dit Chimène au lieu de Juliette. Bon. Bah, pas de souci, pas besoin de refilmer quoi que ce soit, tu prends ton premier dopé à l'IA, ton nouvelle version, et tu changes juste le texte de la vidéo. Et voilà, et puis ça se fait tout seul. Alors le processus, en réalité, est évidemment très très complexe, qui fonctionne sur des vidéos assez longues, en fait, de gens qui parlent, comme ça, face caméra, donc des têtes de gens qui parlent typiquement comme aux 20h, quoi, hein, et qu'une première étape, ça va consister à transcrire ce que dit le sujet en phonème, et à transcrire le texte aussi, donc déjà, il y a une reconnaissance de la parole, mais bon, ça marche, ça, tout le monde sait maintenant que ça marche assez bien. Donc une fois que le texte est transcrit, si une modification est apportée au texte, l'algo va parcourir la vidéo pour retrouver des mini-segments ailleurs où le sujet prononce les bons phonèmes pour la nouvelle phrase, les nouveaux mots. Ensuite, il y a un algo qui scanne la vidéo qui convertit le visage du sujet à un objet 3D. Ensuite, la vidéo, elle est resynthétisée avec les bons phonèmes sur le modèle 3D. Elle est animée en conséquence. Et puis, encore un dernier algo qui s'occupe d'opérer les jonctions et d'adoucir les transitions entre les morceaux des séquences qui sont déplacées et reconstruites. Et après, il y a un réseau qui s'occupe globalement de rendre le visage et d'en faire avec tous les nouveaux paramètres dans chaque frame et pour que tout soit cohérent avec le background, les vêtements, etc. Donc ça paraît tellement compliqué que ça paraît même quasiment pas possible. Et pourtant, le résultat est très convaincant. Il est possible, hein, pourvu que les vidéos soient suffisamment longues, de changer ce que dit le sujet comme on veut et même de le faire parler une autre langue ou de changer sa voix. C'est alors cerise sur le gâteau, après apprentissage, il est même possible de faire dire un texte entièrement nouveau, avec la voix de son choix, et à n'importe qui, encore une fois, pourvu qu'on ait des vidéos dans les 40 minutes et qu'ils soient bien homogènes, c'est-à-dire avec le même décor et le même cadrage, quoi. Donc ce qui est assez simple à avoir quand même pour de nombreux politiciens, tu en conviendras.
Absolument. Donc... Et à chaque fois que tu me parles de ces technologies deepfake, je sais pas pourquoi, je pense que c'est un travers, chaque fois je m'imagine les possibilités dans l'univers du cinéma.
Bien sûr, pour la télé aussi.
Et alors, effectivement, alors, on a déjà parlé du fait que demain, vraisemblablement, tu auras un film et tu pourras choisir qui sera l'acteur, qui seront les acteurs du film, et puis ça le générera à la volée. Mais du coup, là, je suis en train de penser au fait que ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'aime pas les doublages des films, c'est que bah, ça ne peut pas être aussi parfait que la prononciation originale de l'acteur avec la voix originale. Demain, problème résolu grâce à ces algos, du coup.
Oui, bien sûr, t'imagines. Donc pour la télé, je disais, c'est des fortunes en re-shoot pour la télé ou le cinéma qui peuvent être économisées. Et puis tu peux adapter effectivement les mouvements de lèvres dans un film lors d'une adaptation dans une autre langue. Alors, bah, c'est pour le possible. Pour le moment, par contre, c'est pas possible de changer le ton, l'intonation de la voix. Bon, après ça, c'est à l'étude. Mais c'est vrai que c'est toujours pareil, c'est une nouvelle technologie donc de synthèse d'images, puisque ce sont des images de synthèse, hein, véritablement, qui vont aider beaucoup de gens à terme, probablement tous les créatifs utiliseront des choses comme ça d'ici quelques années, quoi. Évidemment, ben voilà, c'est des nouveaux outils très puissants qui possèdent aussi des dangers, quoi, comme d'habitude.
Allez, ça concerne aussi les algorithmes, nos amis les bêtes.
Oui. Alors, la dernière fois, on avait parlé du transfert possible de contenu d'une vidéo à une autre. Cette fois, il est même pas facile. C'est la vidéo devenait... Donc là, on a dit que la vidéo devenait aussi facile à éditer qu'un simple texte. De manière plus légère, on va dire, des chercheurs de chez NVIDIA qui sont aussi clairement sponsorisés par une marque de station de travail que je ne nommerai pas, se sont amusés à faire du face swap sur des chiens. Bon, en fait, il s'agit encore de traduction d'image. C'est comme vous pouvez traduire la même phrase en français et en espagnol. Ben, en gros, vous pouvez aussi traduire un cheval sur une photo en zèbre. Ça s'est déjà fait, hein, d'ailleurs. Et ça requiert énormément d'images à noter, d'entraînement sur des paires, etc. Et là, la nouveauté, qui permet désormais à tout un chacun de savoir à quoi ressemblerait son labrador s'il avait été un fox terrier. D'ailleurs, il y a un lien hein, vers le site de démo. Dans les notes de l'émission, je vous encourage à y aller si vous avez un animal. Vous pouvez essayer avec votre tête aussi, mais bon. Donc ça va plus loin, puisque l'algo fonctionne même alors qu'il n'a jamais vu de fox terrier avant. Donc c'est encore un GAN, c'est-à-dire un Generative Adversarial Network, un couple de réseaux donc, hein, qui se concertent pour, sur leur capacité à engendrer tel ou tel truc. Et dans ce cas-ci, à comprendre ce qui caractérise une tête de chien ou une tête de chat. Donc le réseau est laissé à lui-même sur un énorme pool d'images. Il va les classifier automatiquement et donc voilà, il va les enregistrer et il va, en gros, il va essayer de compresser les caractéristiques principales de bah, des sujets, donc des chiens par exemple. Mmh. Et donc lorsqu'il voit arriver notre brave toutou et l'image cible, bah, il va extraire la caractéristique des deux, il va les morpher. Donc il n'y a pas besoin d'entraînement spécifique. Alors bien sûr, tu peux aussi morpher ton chat en marguerite ou ta tête en celle du hamster. Mais je le conseille pas, ça donne des cauchemars. Bon, globalement, ça marche plutôt pas mal. Ça peut transformer les chihuahuas en chiens, par exemple.
Quelle tristesse. Ben, quand même, ce que permet la tech, c'est quand même affligeant maintenant. Alors, toujours en associant un petit peu hein, les précédentes news, on revient quand même sur des éléments de... Alors si, il y a quand même du deepfake, mais aussi de l'installation d'ingérence sur les réseaux sociaux, on peut mélanger les deux, et aborder cette news de compte LinkedIn qui serait à vocation un peu d'espionnage, mais oui. Dont les profils ne seraient pas c'est les photos de vraies personnes.
Ben, on a parlé plusieurs fois ici du site This Person Does Not Exist, qui est très populaire, hein, qui utilise donc là encore un GAN, un tandem de réseaux de neurones, pour générer des visages très crédibles et différents chaque fois qu'on visite le site. Et bon, on se doutait bien qu'un jour ou l'autre, ces visages se retrouveraient sur de faux profils. Ben, c'est le cas, la semaine dernière, on a remarqué dans la nature, pour la première fois, un faux profil LinkedIn qui utilise un visage de synthèse. Donc il appartient à un espion, évidemment, Cathy Jones, c'est une charmante jeune fille qui s'est liée via LinkedIn, à pas mal d'experts et professionnels de la politique à Washington, dont un bras droit de sénateur, un assistant de député, un économiste, etc. Et bon, elle avait que 52 de connexion, mais bon, c'est assez modeste, hein, faire de l'espionnage via un faux profil d'un réseau social, c'est pas vraiment une nouveauté. La France, l'Allemagne et l'Angleterre ont officiellement mis en garde contre les faux profils LinkedIn. Par contre, ce qui est inédit, en tout cas autant que je sache, c'est que la photo de profil, quand on y regarde de très près, montre des approximations qui sont typiques des visages synthétiques. C'est-à-dire des yeux pas de la même couleur, bon ça arrive dans la nature, mais c'est quand même assez rare, un arrière-plan indistinct, des cheveux qui se fondent dans les oreilles, des boucles d'oreilles qui se fondent dans le lobe, il y a aussi d'autres artefacts comme ça un petit peu suspects. Donc voilà, clairement c'est le premier visage de synthèse comme ça utilisé dans la nature. Et toi Guillaume, est-ce que tu acceptes comme tout le monde qui te demande un ami LinkedIn, à l'image des collaborateurs de Donald Trump manifestement?
Assez aveuglément évidemment. Non, j'essaye de beaucoup trier et sur LinkedIn, j'essaye d'avoir quelque chose qui reflète ma vie professionnelle, ma vraie vie professionnelle, c'est-à-dire d'accepter soit les personnes qui pourraient me démarcher sur quelque chose qui me paraît pertinent et qui m'ont convaincu, soit les personnes avec qui j'ai vraiment travaillé. Évidemment, il n'y a rien qui garantit qu'il y a des vraies personnes derrière. Il y a un avantage aussi sur LinkedIn, c'est qu'il y a les versions premium qui permettent, selon les situations, de monter un petit peu plus d'authenticité. Pour l'instant en tout cas, parce que t'as peu de raisons de penser que le compte LinkedIn Premium qui te contacte pourrait être un faux, bien que en fait techniquement rien ne l'empêche, mais c'est juste j'ai tendance à penser que ça ferait un investissement peut-être un peu conséquent pour des démarches malveillantes. Les démarches malveillantes, Adobe veut aussi travailler à son côté. Ils ont développé pendant toutes ces années Photoshop qu'on connaît. D'ailleurs, c'est rentré dans le dictionnaire le terme de photoshopper une image, c'est-à-dire de la modifier pour qu'elle rende comme on veut qu'elle rende. Donc, on peut faire parler les images comme on le souhaite, de plus en plus en tout cas. Et du coup, Adobe travaille aussi à la manière de détecter ces altérations. Là aussi, on est sur la détection des deepfakes quelque part. Enfin, c'est pas des deepfakes, mais des altérations.
Bah, des... Oui, voilà, ces altérations. Bon, c'est normal et salutaire que les contre-mesures s'organisent aussi pour la photo, hein, et qui est mieux le passé qu'Adobe, effectivement, pour créer un outil de détection des photos retouchées. Et donc, c'est vrai qu'avec l'UC Berkeley, ils ont mis au point un algo qui détecte les manipulations faites à l'outil Liquify, qui est donc super utilisé pour retoucher les formes de visage ou des corps. Hein. 99% du temps, l'algo identifie bien les subtils effets collatéraux hein, qui de la retouche, et ils arrivent même parfois à les inverser. Bon, c'est encourageant, c'est un outil parmi d'autres, Liquify, hein, évidemment, mais bon, à chaque fois qu'une contre-mesure est trouvée, elle donne l'occasion aussi au camp adverse de se perfectionner. Comme tu disais, c'est un chat et, c'est un jeu de chat et, souris permanent. Mais bon, les algorithmes d'intelligence artificielle font aussi partie, mais non, désormais, de la trousse à outils des artistes, comme on va voir avec cette exposition.
Oui, justement, bah, tu peux enchaîner, je pense, du coup.
Oui, bah, parce que bon, les vidéos deepfake deviennent des outils. Donc, comme je disais, il y a Bill Poster qui a posté des fakes de Mark Zuckerberg.
Je l'avais pas vu venir.
Kim Kardashian et Donald Trump qui leur faisaient dire des choses cocasses hein, sur la puissance qu'ils retirent des données ou de leur popularité. Et d'ailleurs, Mark fait clairement allusion à Spectre, et donc Spectre, c'est pas le tout Spectre de James Bond, c'est juste une installation artistique à Sheffield, donc de Bill Poster et Daniel O, qui explore ce thème. Voilà, donc il y a des monolithes avec des écrans tactiles qui permettent aux visiteurs de donner leurs préférences sur des marques ou autres, et basé sur Océan, qui est une méthode de classification, la même qui est utilisée par Cambridge Analytica, les monolithes essaient de cerner les visiteurs psychologiquement. Donc voilà, donc, on a vu en plus... avec la vidéo de Nancy Pelosi, que les manipulations simples peuvent avoir de l'impact, hein, donc, ou même une photo avec une légende détournée peut suffire. Mmh. Donc voilà, c'est les fakes, c'est un truc qui devient aussi un outil artistique, et bon, clairement c'est un truc qui va durer, se démocratiser.
Ouais, on va continuer à le suivre là aussi, c'est des nouveaux éléments de la technologie qu'on a vu arriver quand on suit l'ActuTech comme dans Tech Café et qu'on va continuer de suivre tout simplement. Alors c'est parfait, tu nous as parlé de Mark Zuckerberg, la transition est ma foi toute trouvée pour passer à la rubrique suivante, puisque il y a eu une présentation, enfin en tout cas quelque chose a été dévoilé du côté de chez Facebook, on le savait, hein, c'est la crypto-monnaie qu'on avait vu arriver ces derniers épisodes. On savait qu'il y avait des appels à participation pour être partie prenante des nœuds qui constituent quelque part le réseau. Alors, Guillaume, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ? Est-ce que tu vas pouvoir nous dire s'il s'agit peut-être de la première crypto-monnaie viable et utilisable, non pas que pour la spéculation, mais pour les usages courants, Guillaume ?
Ben oui, écoute, c'est vrai que c'est une des plus grosses annonces Facebook de son histoire, je pense, hein, qui vient d'être faite aujourd'hui, donc c'est le mardi 18 juin. Et c'est l'officialisation de la nouvelle monnaie Facebook qui s'appelle Libra. Finalement, Libra, ouais. Bon, d'ailleurs, il ne faut pas dire monnaie Facebook, hein, ne plus l'appeler jamais Global Coin. C'est Libra, un terme bien connu des astrologues, la balance. Donc aussi la justice, l'équilibre, je ne sais pas.
C'est beau.
En tout cas, c'est beau, n'est-ce pas ? Les white papers sont sortis. Et les professions de foi, d'ailleurs aussi, c'est du lourd. Hein. Donc 2020 sera peut-être, comme tu dis, une date historique. Alors, un de la monnaie 2.0 qui va peut-être engendrer des changements très profonds dans nos vies, pour le meilleur, le pire. Bon, on verra bien. Donc Libra, c'est avant tout une organisation qui compte pour l'instant 29 membres, que des poids lourds. Donc il y a Visa, PayPal, eBay, Mastercard, Iliad, Uber, Lyft, Vodafone, etc. Oui, bien sûr, il y a aussi Facebook. Et ce club très privé va gérer et faire tourner la blockchain Libra. Donc en fait, c'est pas vraiment une blockchain décentralisée du coup, puisque évidemment c'est même l'anti-Bitcoin, puisque le Bitcoin c'est une monnaie qui est décentralisée, où il y a des milliers et des milliers de nodes, donc c'est n'importe qui peut devenir un node. Là c'est pas du tout ça en fait, hein. Libra est géré par la Libra Association, et donc ils sont 29, donc c'est une sorte d'oligo-crypto, si on veut, c'est un club très privé. Donc, évidemment, cette oligarchie, on va dire, est un petit peu à l'opposé de l'idéologie ultra-libertarienne qui est habituellement associée aux crypto-monnaies. Bon, donc chaque membre de Libra Association peut être un nœud du réseau hein, et participer à agréger les transactions dans la blockchain. Et d'ailleurs, il le paye cash, en quelque sorte, puisque chacun participe à un capital qui permet de lier la monnaie Libra à une valeur réelle et du coup d'en éliminer la volatilité, c'est le but. Donc le capital lui va être en liquide ou en actif stable, et la valeur de Libra va donc être protégée de la spéculation, puisque, voilà, évidemment, à la différence du Bitcoin, hein, puisque je rappelle, en Bitcoin, malheureusement, moins de 4% des transactions l'an dernier se sont faites pour acheter des trucs, le reste c'est fait pour juste spéculer. Bon, Libra a des ambitions qui sont absolument immenses, hein, dans l'économie réelle, on pourra payer partout dans le monde avec Libra, avec des commissions misérables, qui, par contre propres aux crypto-monnaies, et des transactions anonymes et sécurisées par le consortium, voilà, des transactions internationales pour tous. Donc Libra est un open source en Apache 2.0, alors bon, il y a eu tous les livres blancs. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la manière dont ça fonctionne par rapport aux autres cryptos qu'on connaît? Alors déjà, c'est bon, comme Bitcoin, par contre, il n'y a pas d'identité réelle sur la blockchain. Voilà, vous n'aviez pas d'identité, seules les paires de clés publiques privées existent. Il est autorisé, donc, alors c'est un truc, comme je disais, c'est un truc qui est autorisé, ce qui veut dire qu'en gros, tout le monde ne peut pas être dans la blockchain, donc il y a évidemment pour l'instant, il n'y a que des grandes entreprises, et bon, probablement, même si la Libra Association est destinée à s'étendre, ça sera pratiquement que des grandes entreprises, il y a très peu de chances que moi, je puisse devenir un élément du nœud du réseau Libra. Bon, voilà, donc ça pose un certain nombre de questions. Donc il s'applique à une gouvernance en chaîne comme ça, hein. Les entités qui peuvent voter au départ, c'est les membres fondateurs, donc Facebook en fait partie évidemment, mais pas uniquement. C'est une monnaie qui est programmable, donc c'est une monnaie qui est comme Ethereum, c'est-à-dire qu'il y a des smart contracts qui peuvent être faits, il y a un langage de programmation qui s'appelle Move, donc un nouveau langage, qui permet de programmer d'avoir des applications sur la blockchain comme on en avait à Ethereum. On avait parlé il y a assez longtemps de ce petit jeu sur la blockchain Ethereum qui consistait à croiser des chats virtuels et à acheter des chats virtuels et collectionner des petits chats. Donc voilà, bon, par exemple, effectivement, il pourrait y avoir des smart contracts et des applications là-dessus aussi. Alors, c'est une monnaie qui, comme Ethereum voulait le faire, c'est une monnaie qui est avec proof of stake. En réalité, c'est une monnaie qui ne nécessite pas de preuve de travail, donc elle n'est pas du tout comme Bitcoin. Il n'y a pas besoin de serveurs monstrueux qui font des calculs monstrueux pour pouvoir gérer la blockchain. En fait, elle se base sur un algorithme donc qui permet d'avoir un algorithme de consensus très particulier qui lui est propre, qui est assez sophistiqué, qui est fruit de plusieurs dizaines d'années de recherche en fait, hein, dans le domaine, et ce protocole permet de s'assurer de la validité de la transaction même s'il y a un tiers des nœuds qui sont infectés, qui sont des traîtres. Donc c'est quand même pas mal, et tout ça se fait sans preuve de travail, donc c'est des proof of stake. Donc ça veut dire que ce sont ceux qui possèdent de la monnaie qui sont sélectionnés de manière plus ou moins aléatoire et algorithmiquement pour faire partie du consensus. Donc c'est une monnaie qui ne consomme pas autant d'énergie du tout que Bitcoin, heureusement. Hein. Donc c'est une monnaie qui aussi est gérée, alors c'est-à-dire que les coins, les tokens sont créés et détruits à la discrétion du consortium. Donc il n'y a pas de minage du tout, c'est pas comme ça que les trucs sont créés. Donc c'est une monnaie aussi où il n'y a pas besoin de conserver tout l'historique des transactions pour chaque truc. Donc si tu as ton wallet de Libra, c'est pas la peine d'héberger tout le ledger, quoi, comme Bon, il y a aussi un certain nombre de problèmes qui n'ont pas été réglés, par exemple, à quel point c'est décentralisé, donc ça j'en ai déjà parlé. Il y a aussi le problème du stockage, parce que si c'est une monnaie qui est utilisée de manière extrêmement large et globale, le ledger va devenir très très vite très très gros. Bon, c'est pas forcément un problème si c'est que des gros acteurs qui s'occupent des nœuds, mais là encore ça pose un problème de gouvernance, quoi, d'une monnaie qui est pas si démocratique que ça en réalité. C'est pas la monnaie Facebook, mais c'est quand même la monnaie du consortium Libra. Voilà, donc il y a pas mal de questions en suspense. Néanmoins, Libra, c'est quand même une monnaie qui est très sophistiquée et qui pourrait bel et bien réussir, et réussir via Calibra. Donc tu as quelque chose, qu'est-ce que tu en penses, toi, pour le moment? Parce que là, on parle pour l'instant de la Libra Association, c'est-à-dire qui est une entité différente de Facebook complètement. C'est une entité... vas-y.
Dont le siège est en Suisse, même si les équipes qui opèrent cette association sont aux États-Unis. J'ai à chaud comme ça, hein, c'est peut-être la news tech quand on suit l'actu, c'est l'événement dans l'univers des nouvelles technologies qui est peut-être le plus à même d'avoir des impacts.
alors sans doute pas demain, sans doute pas à la rentrée 2019, mais des impacts sur notre vie, selon la manière dont ça prend, et évidemment, il faudra voir comment et si ça prend. Ça va forcément prendre d'une manière ou d'une autre, maintenant quelles vont être la portée. Peut-être un petit mot hein, des acteurs, donc tu cites Facebook, enfin, évidemment on cite tous Facebook dès qu'on parle de Libra, puisqu'ils sont à l'initiative, Spotify, eBay, Stripe, Lyft, Visa sont de la partie. On a Kiva aussi, qui est un acteur de micro prêt pour qui a une image assez positive d'ailleurs, puisqu'il aide au développement d'environnements dans le monde où le développement est plus compliqué, où on peut participer à partir de petites sommes à des micro-crédits sur des projets. Il y a PayPal, il y a Mastercard, il y a même Iliad. Alors ça m'a un peu surpris, je t'avoue, de voir Iliad comme étant une partie prenante de cette Libra Association. Il y aura évidemment d'autres acteurs et cette liste n'est pas exhaustive. Donc je te dis, moi j'ai quand même le sentiment que ça risque d'avoir des impacts énormes sur notre vie. Se pose pour moi une question de crainte assez physique, qui est quel garde-fou il y a dans les usages de cette monnaie un peu décentralisée, même si elle n'est pas démocratique, pour éviter les mouvements de blanchiment d'argent. Les mouvements d'argent qui sont à vocation à financer le terrorisme, à avoir des activités malveillantes, quoi. C'est sur ces éléments-là sur lesquels, je dis pas qu'il n'y a pas de réponse, mais moi j'ai pas eu le temps de creuser, et sur lesquels j'ai mes premières inquiétudes, puisqu'aujourd'hui les monnaies sont des garde-fous par rapport à ça, sur leur fonctionnement étatique tel qu'elles sont conçues et tel qu'elles sont opérées. Et je me demande ce qui peut se passer en ouvrant un peu la boîte de la décentralisation. J'imagine bien hein, que c'est des acteurs qui vont y penser et qui vont prendre acte de ça et qui vont proposer des choses. Mais fondamentalement, si la monnaie fonctionne telle qu'elle est décrite, j'ai du mal à comprendre quelle solution pourrait être proposée à ça. Il pourrait y avoir des débats à dire, mais c'est le même débat qui vise à défendre les messageries chiffrées de bout en bout qui permettent de garantir l'anonymat. Alors oui, ça aide à des échanges de groupes terroriste, mais évidemment c'est pas que ça. Je pense que là on parle de financement, ce qui est vraiment pas la même chose. Alors voilà, c'est mon inquiétude à chaud quand j'ai vu ces news arriver. Je sais pas si toi tu partages ces interrogations que je peux avoir, et si t'en as une vision à titre personnel.
Inévitablement, hein. De toute façon, ça se fait déjà avec de l'argent réel ou par d'autres moyens, comme les monnaies par exemple. Les monnaies, j'avais parlé du blanchiment d'argent via les monnaies in-game de certains jeux vidéo en ligne.
Exact.
Donc ça, bon, c'est un problème qui est extrêmement compliqué, qui n'est pas du tout résolu de toute façon. Et là, je pense pas que Libra soit complètement immunisé contre. Cela dit, bon, il y aura sans doute des garanties par le fait simplement qu'il n'y a que des grosses entreprises qui n'ont pas intérêt à avoir leur réputation salie, en particulier Facebook. Et d'ailleurs, comment Facebook compte-t-il profiter de Libra si celle-ci est open source et indépendante, etc., etc. Eh ben, c'est via Calibra. Donc, Calibra, c'est Bank of Facebook, littéralement, hein. Puisque bon, c'est un portefeuille Libra qui sera intégré d'office à WhatsApp et Messenger, et qui sera aussi disponible en tant qu'appli indépendante pour ceux, les pauvres, qui ne sont pas sur Facebook. Donc, via Calibra, tu pourras faire des transferts de fonds entre amis, des paiements avec des commerces compatibles, et plus tard, il y aura aussi des facilités de paiement et même des crédits qui seront offerts. Donc, déjà, Facebook assure que ton historique d'achat ne sera pas utilisé pour le ciblage. Donc, apparemment, ton compte Libra et ton compte Facebook seront deux entités séparées. Et que les commissions seront minimales, d'ailleurs, à tel point que les marges des commerces, ou même des Uber, ou même des Uber, des chauffeurs Uber, pourraient augmenter, ou les prix baisser, on va savoir. Donc, Libra va être clé en main pour des milliards d'utilisateurs d'office. Si une crypto a une chance de devenir mainstream, c'est maintenant ou jamais.
C'est clair.
Bon, alors évidemment, on peut se poser la question subtile de se demander si la position dominante de Facebook ne lui permet pas d'obtenir de fait une position dominante dans le secteur financier, et que si c'est pas un problème, antitrust, tout ça, à voir. Pour l'instant, d'après Facebook, un smartphone Android à $40, je vois pas pourquoi je précise Android, c'est pas comme s'il existait des produits Apple à $40. il suffit donc si un truc comme ça, suffit pour donner accès aux services financiers essentiels à quiconque, même s'il n'a pas de vraie banque. Et c'est le cas de très très nombreuses personnes dans le monde. Donc il suffit d'un compte Facebook et d'une pièce d'identité valide pour avoir un compte Libra. Et donc, voilà, c'est pour tout le monde, transférer de l'argent deviendra aussi simple que d'envoyer un message, quoi. Il y aura même des bornes Libra qui permettront de changer son cash en Libra, donc c'est prévu. Et les membres du consortium vont sans doute les implémenter, évidemment. Donc, à partir de 2020, donc l'année de lancement de la monnaie, tu pourras sans doute payer ta course Uber, ton cuiseur à riz sur eBay en Libra, ou bien un taxi à Hong Kong, parce qu'il n'y aura plus de frais de change. Il y aura la même monnaie pour tout, partout dans le monde. Mmh. Voilà, donc les fameux crédits universels qu'on voit dans les œuvres de science-fiction, ben ça va peut-être se matérialiser sous la forme du Libra, qui sera une sorte de monnaie unique. Parce que, bon, il faut savoir qu'avant même l'annonce officielle, certains se sont déjà dit fort intéressés par la possibilité de déplacer des liquidités de manière transnationale à peu de frais, et en particulier les pétroliers russes, hein, qui pourraient indexer le prix du baril en Libra, et donc s'isoler des fluctuations monétaires globales, tout en évitant les frais de change. Donc c'est, évidemment, c'est tout bénef. Et alors, attends que Facebook te fasse un crédit à la consommation pour ta prochaine PlayStation 5, je sais pas... Dans quel état d'esprit sont les banques? Mais clairement, les intermédiaires qui sont déjà Visa, PayPal ou Mastercard sont déjà engagés, parce que je crois qu'ils sentent le vent tourner. Et bon, ben voilà, ils pensent sans doute qu'il vaut mieux prendre le train tout de suite, hein, plutôt que d'être laissé seul sur les quais sombres et froids d'une gare abandonnée en race campagne dans la Creuse le 3 décembre à minuit. Le comble de la solitude. Donc voilà, après, les implications éthiques de laisser un tel pouvoir à un consortium de grosses boîtes privées qui sont pas toutes irréprochables, il faut le dire, question gestion management. Voilà, c'est un autre problème dont on aura sans doute encore l'occasion de parler plein de fois.
Ouais, ça donne envie d'en parler des heures, hein, pour tout dire, parce que, encore une fois, c'est le truc marquant. Quand on parle de tech, on parle aussi souvent de références dans la culture populaire de type cyberpunk, que moi j'ai bien connu quand j'étais petit, où on voit la perte d'influence des États au profit de l'influence auprès des consommateurs et du grand public et des citoyens par les entreprises. Alors on l'a déjà mesuré à plein de niveaux, quand on parlait évidemment de Facebook, de Google, des GAFAM, mais aussi de plein d'autres acteurs de la tech. Là, on dépasse encore quelque chose, puisque c'est quelque chose qui jusque-là était de la chasse gardée, quelque chose de grande ampleur. Effectivement, tu parlais des monnaies dans les jeux, c'est une chose. Là, on parle potentiellement d'une monnaie à part entière et de grande ampleur qui est validité un petit peu partout dans le monde, pour qui veut bien la faire fonctionner. Et on voit la place que prennent les entreprises par rapport à ça. Est-ce que ça risque pas, dernière chose peut-être, est-ce que ça risque pas de renforcer des guerres culturelles auxquelles on peut assister aujourd'hui? Alors évidemment, c'est facile de citer ce qui se passe en ce moment entre les États-Unis et les entreprises chinoises comme Huawei, mais aussi des affrontements entre la Russie et l'Occident en général. Est-ce que finalement cette monnaie a une quelconque possibilité, viabilité dans des environnements comme la Chine par exemple?
Alors, ça dépend. Disons que si ça avait été fait par Google, par exemple, ça aurait probablement pas marché en Chine. Après, Facebook, je sais pas vraiment, mais ça a la possibilité, au contraire, d'être complètement international. Ça a la possibilité d'être une monnaie mondiale. Évidemment, sauf si un État en décide autrement. Toujours, tu vois. Par contre, un État peut aussi imaginer, ou un groupe d'États peut aussi imaginer de faire sa propre monnaie. Mm-hmm. Et donc de faire son morceau, voilà, sa monnaie transnationale. Comme par exemple de l'euro, ou par exemple, je sais pas, là, on a vu qu'il y a des rapprochements entre les Russes et les Chinois. Bon, pourquoi pas, hein. Tout est possible, en réalité. Ce qu'on voit, effectivement, c'est que 2020 sera l'année cyberpunk, alors un cyberpunk, quoi, puisque avec une monnaie comme ça, un petit peu. Alors après, il faut aussi se demander à quel point c'est. Parce que finalement, Facebook devient une sorte d'État, quoi. Il y a une identité Facebook, il y a donc une kyrielle de services qui ne va cesser de s'amplifier, de s'accroître sur Facebook. Il va y avoir une monnaie Facebook. À tel point que si dans 10 ans cette monnaie est vraiment extrêmement utilisée, ne pas être sur Facebook, ça va pas être handicapant. À quel point chacun aura droit à utiliser Libra ou pas, tu vois, parce que c'est compliqué en réalité, hein, je veux dire, tout le monde a le droit d'utiliser la monnaie en France, tu vois. Genre,
c'est un droit fondamental.
C'est un droit fondamental, c'est une commodité, une monnaie.
Libra, c'est même pas un droit fondamental, t'as raison, c'est une commodité.
C'est une commodité. Est-ce que Libra devra de jour devenir une commodité? Et si c'est le cas, comment ça va se passer alors que ce sont que des entreprises privées? Bon, voilà, on est à l'aube, si tu veux, d'une nouvelle ère, et faut voir ce que ça donne. Ça va être très, très intéressant, je pense.
j'ai beaucoup de mal, hein, pour tout te dire, émotionnellement et même dans l'investissement qu'on peut faire dans le podcast à titre individuel, à laisser ce sujet de côté parce que j'aimerais qu'on en parle. On continuera de toute façon à en parler, ça c'est sûr. Un dernier mot, parce qu'on parle de Facebook, et puis c'est souvent, hein, qu'on entend la légende urbaine sur laquelle déjà on s'est prononcé à plusieurs reprises, de Facebook qui écouterait les utilisateurs donc de Facebook sur les applications sur les smartphones. Et je dis légende urbaine parce que notre position à tous, autant que nous sommes dans l'équipe de Tech Café, est plutôt de dire que non, Facebook ne le fait pas, mais il y en a d'autres qui se sont pas gênés pour le faire, Guillaume.
Oui, c'est l'application Liga. Moi, j'ai pas trop regardé.
Excuse-moi.
Oui, vas-y. Je pense que t'as plus suivi que moi. Ouais. C'est un truc de foot, hein, en même temps.
Ah bah, c'est un truc de foot. Et depuis que j'habite Amiens, forcément, je suis l'Amiens SC, oui, qui fait partie de la Ligue 1. Enfin, qui est dans le classement de la Ligue 1. Même si le classement est pas ouf, mais ils vont remonter, tu vas voir. La Liga, c'est l'équivalent de la Ligue 1 espagnole. Et en fait, ils se sont appuyés sur l'application Liga sur smartphone. Et notamment sur la fonctionnalité de captation audio pour les utilisateurs qui accepteraient l'activation de la fonctionnalité micro dans l'application, de capter donc l'environnement sonore, d'en faire une empreinte numérique qui permet de savoir, cette empreinte numérique, si la personne est en train d'assister à un match de la Liga. Et évidemment, il y a recoupement de la part de la Liga pour essayer d'identifier les bars, les cafés qui diffuseraient la Liga sans les licences et sans les autorisations de diffusion de la Liga, donc tout simplement pour du flicage. En gros, c'est du crowd flicage. Ils mettent à contribution les utilisateurs de l'application pour remonter cette information, bien souvent sans savoir que c'est le cas, combien ont activé le micro, sans trop savoir pourquoi ils l'activaient et sans avoir regardé les tout petites lignes qui n'était d'ailleurs pas forcément très clair sur le sujet. Donc c'est une démarche dans laquelle ils se sont lancés. Ils se sont vus infliger une amende de 250 000 euros pour ce procédé. Voilà. Est-ce que ça t'évoque quelque chose à la lumière de ces quelques propos que j'essaie de décrire ?
Oui, mais non, mais c'est que c'est techniquement possible déjà, donc j'ai que sur Android, je suppose.
Alors en fait, tu peux tout à fait. Alors je crois que pour le coup, c'était tout smartphone, parce que sur iPhone, tu peux tout à fait utiliser le micro si tu en prends l'autorisation sur une application iOS sans aucune réserve.
C'est intéressant cette histoire, comme
tu fais, parce que il y a Apple qui est assez, mais d'ailleurs Google aussi, hein, sont assez explicites sur le fait qu'il y a des recommandations pour les développeurs et même des obligations d'informer clairement de pourquoi ils demandent l'autorisation. Maintenant, est-ce que c'est pas passé entre les mailles du filet?
Non, mais d'accord, je vois, effectivement. C'est très intéressant, cette histoire. C'est une excellente idée, ces genres de crowd flicage.
Oui, ça donne des idées, hein.
Ah bah oui.
Bon, on va essayer de déposer des business models. Bon, Guillaume, on va clore les trois rubriques là qu'on a abordées. On avait encore une fois de plus beaucoup, beaucoup de choses à se dire ensemble. Je voulais en profiter avant qu'on aborde la rubrique en bref pour faire un petit coucou aux personnes qui ont rejoint la plateforme Patreon. Alors, je parle souvent de ma formation là en ce moment qui me prend beaucoup de temps. Il y a une personne avec qui j'échange de temps en temps qui est aussi dans un dispositif de thèse et donc qui passe beaucoup de temps aussi, je lui fais un petit coucou, et en tout cas qui rejoint le Patreon de Tech Café, c'est Odile Fleury, donc un petit coucou à toi, un coucou aussi à Cyril Anne Westlong qui rejoignent aussi le Patreon, et Fabien Hannes, et je ne peux pas non plus faire ce tour de piste sans citer Florent Coulon qui rejoint aussi la plateforme Patreon, et surtout Guillaume Promet qui renouvelle son soutien pour Tech Café, donc merci beaucoup à toi Guillaume. On aura l'occasion de rééchanger, vous aurez l'occasion de réécouter Guillaume Promet pour deux raisons. C'est qu'il y a toujours des choses à dire, toujours très intéressantes dans le domaine de la santé et les dispositifs médicaux avec Guillaume. Et puis en plus, il s'appelle Guillaume. Donc bon, on est bon quoi. Donc merci beaucoup à vous qui soutenez Tech Café via Patreon. On enchaîne donc avec la rubrique en bref. Un petit tour de news autour de ce qui touche à Huawei, Guillaume.
Oui, parce que bon, il y a eu des petites news effectivement sur les impacts que ça allait avoir sur Huawei, toute cette histoire. Je vais pas vous faire l'affront de
expliquer tout ce qui. Tech Café,
oui, voilà. Donc c'est embargo, embargo américain, tout ça. Donc le fondateur de Huawei, donc il s'appelle Ren Zhengfei, vous pouvez pas dire comme ça. Donc lui, par contre, il table sur un chiffre d'affaires d'environ 100 milliards de dollars pour 2019-2020, c'est-à-dire 30 milliards de moins que qu'est-ce qui aurait dû être, en fait, hein, tout simplement. Huawei s'attend à 40 à 60% de baisse donc dans les livraisons de smartphones à l'international, ce qui, je trouve, est assez optimiste, en fait. Parce que, ben oui, parce qu'on peut se demander, pour l'instant, dans l'incertitude la plus totale, je veux dire, les gens ne vont pas acheter du Huawei tout de suite parce qu'ils sont dans l'incertitude. Et après, ben évidemment, si en août, là, ça ne se débloque pas, ben ça va être encore pire. Donc, bon, voilà, 60-40%, je trouve ça plutôt sympa. Évidemment, on avait parlé du Mate X, ce fameux smartphone pliant qui nous avait plutôt blotté hein, au dernier MWC. Bon, alors, officiellement, c'est parce que Samsung est dans la panade et n'arrive pas à sortir son Galaxy Fold et qu'ils n'ont pas du tout envie qu'il leur arrive la même chose. Donc, le Mate X est déplacé, donc il est juste retardé, a priori, de juin à septembre. Bon, est-ce que ça va être plus ? On n'en sait rien. De toute façon, il est évident que le Mate X aussi subit les mêmes problèmes que tous les autres téléphones, hein, donc avec les États-Unis. Bon, on verra sorti, donc peut-être pas encore. Voilà, c'est peut-être qu'on verra pas de sitôt ce magnifique machin donc d'écran 8 pouces OLED et qui coûte seulement 2 600 $. C'est presque donné.
J'ai hâte.
Donc le Galaxy, on peut enchaîner sur le Galaxy Fold. Hein, oui, le Galaxy Fold, il n'y a pas grand-chose en fait de plus. Hein, le Galaxy Fold, c'est juste que il est lui aussi retardé. Il arrivera pas en juillet. On ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera. Peut-être en septembre. Bon, voilà. Samsung a plus ou moins dit que rien n'avait évolué donc depuis le mois d'avril. Donc on attend de voir. Néanmoins, ça n'empêche pas Samsung de faire des brevets sur des smartphones rigolos. Avec des écrans qui sont même plus que pliants puisqu'ils sont carrément enroulables. Avec une idée complètement stupide, de mon point de vue, puisque c'est un téléphone enroulable. Donc, quand vous le prenez en mode portrait, c'est un téléphone qui a l'air à peu près normal. Et ben, voilà, vous déroulez une partie d'écran, ce qui fait que vous avez un téléphone extrêmement long et extrêmement étroit, avec un rapport d'écran complètement improbable, qui ressemble à rien. Et je ne vois pas du tout l'intérêt d'un truc comme ça, d'autant plus que technologiquement, je veux dire, ça sera pas moins compliqué ni moins fragile qu'un Galaxy Fold, qui n'arrive déjà pas à produire correctement. Donc voilà, c'est un brevet pour dire, mais voilà, exactement.
Le brevet ne veut pas dire on est en train de le faire. Ils ont peut-être envie un jour, par contre.
Exactement, on va savoir.
Le ministre du budget américain qui voudrait garder Huawei encore un peu, ça l'arrangerait
bien. Oui, on veut garder Huawei encore pendant 2 ans si possible, tout simplement parce que Huawei, ben, ils sont pas très chers et ça, ça fait plaisir. Parce que si on vire complètement Huawei, ben, il y a de moins en moins de gens, ça va dramatiquement réduire le nombre de fabricants de télécoms qui sont capables juste de fournir des équipements au gouvernement. Oui. Déjà, de base en plus, ça risque de coûter beaucoup plus cher et même de manière disproportionnée aux compagnies télécoms qui sont dans les zones rurales. Et voilà, ça va donner des choses beaucoup plus chères. Du coup, le ministre du budget, mais aussi les fournisseurs américains, un certain nombre de fournisseurs américains de Huawei, et avec un haut profil, hein, comme Intel, Qualcomm, Xilinx, etc., etc., font carrément du lobbying auprès du gouvernement pour lever les sanctions, parce que ben, c'est pas bon pour les affaires, tout ça, évidemment. Reuters révèle que des hauts responsables de Xilinx, par exemple, et Qualcomm aussi de son côté, font du lobbying pour dire, enfin en disant tout simplement que, ben, en fait, c'est exactement ce qu'on disait, hein, pour les technologies qui ne font pas partie des infrastructures télécom 5G ou autres, ben, il semble qu'il ne devrait pas y avoir de problème de sécurité nationale et que donc il ne devrait pas être affecté par l'interdiction. Et que du coup, ben, on pourrait continuer à faire du business avec et à leur vendre des composants, parce que quand même, ça rapporte pas mal de pognon. Voilà, on verra ce que ça donne, on verra si l'argument économique atteint Donald Trump ou pas.
Ce qui est marrant, c'est que le débat de fond n'a, je trouve, aucun sens, en fait. On parle de sécurité, mais en fait, on parle jamais de sécurité. Enfin, le problème de départ serait la sécurité, mais on parle jamais de sécurité. Et effectivement, dès qu'on commence à aborder les choses sous un angle logique, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus trop d'analyse. Quel OS va remplacer Android si Huawei se trouve obligé de ne plus utiliser Android, Guillaume ?
Alors, à ma grande surprise, ce sera peut-être vraiment Hongmeng OS, parce que Hongmeng, il y a des trademarks Hongmeng absolument partout, et il est possible que finalement ce soit pas ni Arc ni Hawk OS, puisqu'on ne sait pas comment ce truc va s'appeler en réalité. Donc voilà, moi j'étais très fier de Kakat OS, personnellement, mais bon.
Excellent.
Donc, globalement, ce truc existe quand même beaucoup. Ils existent sur beaucoup de machines, puisqu'il y a à peu près 1 million de machines qui fonctionneraient dessus, en pré-version. Et Hongmeng serait donc en test sur, alors, donc évidemment par des employés Huawei, mais aussi par des employés de chez Oppo, Vivo ou Tencent qui le testeraient. J'ai vu écrit que cet OS serait 60% plus rapide qu'Android, ce qui ne veut strictement rien dire, parce que en fait, c'est que, sans contexte, ça veut strictement rien dire. C'est-à-dire, il est plus rapide à faire quoi ?
Il peut être
afficher
plus
les fenêtres,
à charger à la limite au départ.
Non mais mais il est plus rapide à quoi ? À démarrer, à afficher des fenêtres, à afficher du texte, à copier des trucs, à quelles fonctions ? Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Donc bon, tu peux pas être 60% globalement meilleur à tout. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Donc pour l'instant, on n'en sait rien. Toujours est-il que on ne sait pas non plus quand est-ce qu'il va arriver. Mais il y a des gens qui essayent, donc des analystes, par exemple ceux de Tianfeng Security, qui tablent sur une sortie en octobre, une sortie pour l'instant limitée aux téléphones les moins haut de gamme, tout simplement parce que on tolère mieux peut-être dans cette gamme-là les éventuelles imperfections de jeunesse qu'aurait Hongmeng OS. Ou autre chose OS, et toujours est-il que ça veut dire qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer pour le Mate 30. On ne sait pas du tout quel OS à l'heure actuelle qui prend le Mate 30, ce qui est quand même très 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 inquiétant, enfin, en tout cas pour Huawei.
Peut-être que ça a le temps de se calmer tout ça d'ici septembre. Et j'imagine que les personnes chez Huawei sont fébrilement en train de bosser et d'anticiper tous les cas possibles, ça va être difficile. Hein. Allez, est-ce que tu utilises toujours Windows, Guillaume ?
Oui, je réutilise Windows parce que j'ai changé de PC il n'y a pas longtemps, il était avec Windows, j'utilise plusieurs trucs, mais effectivement je réutilise Windows tout à fait, et je continue à pester contre occasionnellement d'ailleurs, et alors ce qui est intéressant avec Windows c'est qu'on parle souvent de Core OS, on ne sait pas trop, là globalement on n'en sait pas beaucoup plus explicitement, mais il y a des petits changements qui arrivent sur les prochaines versions. Alors c'est la version 20H1 de la build 189.17, donc ça veut dire globalement que c'est une pré-version qui sera probablement, on va dire, distribué en 2020, l'année prochaine. Et donc, il y a un utilisateur qui s'appelle Albacor, qui a repéré des choses intéressantes, en particulier la possibilité pour ce système-là, pour cette version du système, de mettre à jour le shell indépendamment du reste. Alors en fait, le shell, qu'est-ce que c'est ? C'est la couche graphique, c'est la couche interface, on va dire, utilisateur. Le shell, ça regroupe, par exemple, la barre des tâches, le menu démarrer, etc. Donc le Windows, c'est un truc qui est assez monolithique, qui a été pendant longtemps assez monolithique. Tout est un petit peu interdépendant, et voilà, c'est un truc global, alors que Linux, par exemple, le noyau Linux, il est indépendant complètement de la couche graphique qu'il y a au-dessus. On va dire que c'est plus modulaire. Là, ce que ça tendrait à dire, c'est que Windows se modularise un petit peu de la même manière, c'est-à-dire que il y a une couche noyau qui va rester indépendante du shell, qu'on pourra mettre à jour le shell sans mettre à jour complètement le tout. Voilà, donc ce sera plus, évidemment, ça pourrait être plus intéressant, parce que ça ferait des mises à jour qui sont plus, plus faciles à faire, on va dire, plus petites, plus fines, on va dire. Et voilà, donc c'est peut-être c'est peut-être un indice, on va dire, jusque sur la possibilité de ce que pourrait être CoreOS, quoi, c'est-à-dire un OS plus modulaire dont l'interface graphique en fait pourrait changer de manière beaucoup plus importante et s'adapter à divers appareils, comme par exemple les prochains appareils multi-écran, etc. Enfin, tu sais, les trucs double écran, etc.
Il y a des parallèles à faire avec Fuchsia, peut-être, non, le projet de Google, ou pas du tout, non, même pas.
Peut-être, pas vraiment, je dirais pas.
On spécule. Google s'est fait prendre un peu la main dans le sac, mais bon, c'est peut-être pas à lire qu'au premier niveau, sur une sombre histoire de paroles de chansons, Guillaume.
Ouais, ça c'est très rigolo, je trouve, parce que c'est Genius Media Group qui donc est spécialisé dans les paroles de chansons, donc ouais, tu vas chercher des paroles de chansons, un petit peu tout type, et bon, il a vu son trafic s'effondrer tout simplement parce que Google a commencé à offrir les mêmes services, comme c'est malheureusement souvent le cas, sauf qu'ils sont allés voir les paroles que donnent Google, et donc ça date de 2 ans cette histoire, et ils se sont rendu compte que c'était exactement les mêmes que sur leur site. Alors tu me diras, c'est la même chanson, ok, mais elles étaient écrites très exactement de la même manière. Alors ils se sont dit, on va tester un truc rigolo, on va changer très subtilement les textes de nos chansons. On va alterner les apostrophes droites et les apostrophes courbes, de manière, exactement de la même manière pour toutes nos chansons. Et en fait, ils l'ont fait de telle manière à coder en code morse, red-handed, ce qui signifie globalement la main dans le sac. Et ils ont trouvé des centaines de chansons sur le service de Google qui étaient exactement les mêmes avec le code, même dans le sac, donc le code Morse, qui tendrait à prouver que effectivement Google s'est pas emmerdé et a pris directement les trucs qui existaient déjà, quoi. Ce qui est quand même assez rigolo, je trouve.
Ouais, tout à fait. En même temps, j'ai vu alors il y a un article sur Numérama qui reparle de ce sujet et qui en parle sous un angle assez intéressant parce que t'as l'impression que c'est un petit peu la victime qui est opprimée par le géant Google. Et quand tu creuses, c'est vrai que le site derrière la Genius, en l'occurrence, a pas forcément plus les droits pour diffuser les paroles des chansons que Google. Et donc, en fait, Google récupérerait du contenu de ce site, mais finalement, n'a pas plus de légitimité pour diffuser les paroles sur leur site. Donc, je trouvais ça...
Mais d'ailleurs, la question que je me pose, c'est comment ils font ? Enfin, je veux dire, ils le font eux-mêmes ? C'est-à-dire, ils écoutent les chansons, ils transcrivent ? D'où ils sortent, en fait,
les paroles ? C'est une très bonne question. Moi, je m'étais demandé si c'était pas crowdsourcé, mais je crois pas qu'il y ait de moyens. Il y a plusieurs. Il y a parole.net en France, qui est plutôt bien référencé, je crois, sur les paroles de chansons. Je sais pas comment ils font.
Si c'est des après, il y a les paroles dans les livrets des CD. Donc, ça veut dire qu'ils doivent acheter tous les CD, transcrire tous les livrets. Je sais pas comment ils font. Est-ce que tu as le droit de faire ça, de les mettre ? C'est vrai que c'est une bonne question. Ça. Si tu as un CD, tu l'as acheté, tu as les paroles de la chanson dessus. Est-ce que tu peux les poster en ligne ? Est-ce que c'est protégé ? Comment c'est protégé ?
Je suis pas certain parce que c'est pas parce que tu as le CD que tu peux le diffuser en ligne. La musique.
C'est vrai, mais il y a que si c'est que le texte, tu vois, qu'est-ce qui est protégé ? Est-ce que je sais pas. Ouais.
Ben, enfin, par exemple, t'as pas le droit si t'as un livre, si tu l'as acheté, d'enregistrer le livre audio et de le diffuser, tu vois. T'as pas le droit de lire le texte pour en faire un livre
c'est
audio.
Vrai, c'est vrai, mais dans le cas d'un livre audio, c'est quand même le texte, tu vois. Il y a pas de musique. En même temps, les deux sont probablement protégés. Donc,
C'est compliqué. Alors là, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a des éléments de réponse sur le sujet, surtout n'hésitez pas à nous le dire. Sinon, si on a le temps, peut-être, on mettra notre casquette d'enquêteur et on ira creuser ce sujet. Allez, un petit mot aussi pour une application concrète, industrielle, et c'est peut-être pas la dernière qu'on va voir dans ce domaine-là arriver. C'est celle de l'utilisation d'HoloLens 2 que Airbus a décidé de mettre en place pour ses chaînes de montage. J'ai trouvé ça hyper intéressant de voir qu'il y a des utilisations très concrètes et très industrielles d'HoloLens qui commencent à se multiplier. On n'a pas beaucoup plus de choses à en dire, si ce n'est que les promesses sont de dire que ils vont arriver à gagner en temps et peut-être économiser en partie sur des mains d'œuvre, sur des coûts de ressources et donc être plus rentable. Donc d'un point de vue industriel, c'est évidemment très intéressant, et de voir des applications concrètes de la réalité mixte à la réalité, à la production, à l'industrie, je trouve ça cool. Donc voilà, c'est une chose à suivre de plus. Et puis un dernier mot pour vous reparler de Cellebrite. Il n'y a pas encore une fois beaucoup de choses à en dire, mais on parlait tout à l'heure de jeu et de chat de la souris, du chat et de la souris. Ben là, c'est encore un exemple parfait. Cellebrite, c'est cette société qui proposait même de déverrouiller tous les smartphones, y compris les iPhones qui sont réputés être inviolables, etc. Et ils avaient été un peu mis de côté parce qu'ils n'arrivaient plus à déverrouiller les dernières versions. Ça y est, ils arrivent à nouveau à tout déverrouiller ou presque. Il y a évidemment iOS 13 qui est encore en bêta, qui fait pas partie des éléments qui sont couverts par les possibilités de piratage, mais il n'y a pas non plus le Samsung Galaxy S10, donc il y a des petites exceptions, mais voilà, le jeu du chat et de la souris, entre le verrouillage de nos données et la tentative de les hacker, continue et n'est pas prêt de s'arrêter.
Mais c'est fou, mais alors, c'est assez incroyable qu'ils y arrivent. Moi, je suis assez impressionné de voir qu'ils arrivent à le faire, déjà. Je trouve ça vraiment incroyable. De l'autre côté, bon, c'est pas comment, c'est ça le truc, évidemment, c'est pas comment, c'est un secret industriel. Hein. Mais de l'autre côté, on le rappellera jamais assez, c'est pas bien d'empiler les failles et les vulnérabilités, de les garder pour soi. C'est mal. Il y en a eu des problèmes à cause de ça dernièrement.
C'est clair. Arrêtez, faites pas ça, c'est pas bien. Partagez les failles, c'est mieux. Voilà, on va clore toute cette rubrique de news. Vous êtes à jour. Je pense que vous pouvez cocher la petite case être à jour des actus tech dans votre to-do list. C'est grâce à Tech Café que vous y êtes parvenu. Peut-être pas seulement à Tech Café, mais en tout cas, on a bien contribué, je pense. On va passer aux bonus. Les bonus où on vous recommande quelque chose qui nous a plu, où on passe un coup de gueule sur des choses qui nous ont pas plu, au contraire, des choses qu'on voudrait vous recommander. Guillaume, qu'as-tu emmené dans ta besace pour les bonus de cet épisode de Tech Café ?
Ben moi, je vous propose distrotest.net. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un client VNC web qui se connecte à des serveurs et qui vous propose de tester 689 versions de 223 Linux différents. Alors, parce que oui, effectivement, Linux, un des gros avantages de Linux, c'est aussi un de ses plus gros problèmes, c'est qu'il y a énormément de distributions, donc il y a énormément d'interfaces graphiques différentes, de versions différentes d'une même distro, et donc parfois ça peut être un petit peu difficile, et c'est vrai que jusqu'à présent, pour tester une distribution, le plus simple, c'était encore de télécharger l'ISO, et soit de la booter sur une clé, soit de faire une machine virtuelle, mais bon, ça prend quand même du temps, il faut quand même en avoir envie. Ça pourrait être super cool de tester ça directement, comme une sorte de shadow, donc un ordinateur distant, mais qui aurait la version Linux directement installée.
Non.
Et c'est ce que propose DistroTest.
Excellent.
Donc ça marche en VNC. Donc vous vous connectez donc dans votre. Alors évidemment, ça marche bien, mais bien entendu. S'il y a beaucoup de monde, parfois vous devez un petit peu attendre, et bon voilà, c'est pas d'une réactivité à la Shadow non plus, hein, faut pas exagérer, c'est du VNC, c'est pas fait pour jouer, donc voilà, il y a quand même un truc, mais vous pouvez donc sélectionner votre version, enfin votre serveur de Linux, puis votre version, et ensuite vous bootez une machine virtuelle
c'est
qui
super.
Est complètement fonctionnelle, et que vous pouvez tester comme ça en temps réel. Alors, les machines virtuelles, attention, ont une durée de vie de 2 heures, hein, c'est juste pour le test, et elles sont pas connectées à Internet, vous pouvez pas aller surfer ou même lancer du minage sur des instances comme ça. En plus, c'est des petits trucs, hein, y a pas beaucoup de mémoire, tout ça, c'est vraiment pour tester juste la distro, voilà, voir comment ça se comporte, voire même, voilà, vérifier les versions logicielles ou si les possibilités de personnalisation. Donc, c'est très sympa. Si vous êtes intéressé par Linux, si vous voulez tester une distribution en particulier, bah, je pense que c'est assez idéal, même si, bon bah techniquement c'est un petit peu voilà, le site est pas extrêmement sexy, voilà, c'est clairement un truc de barbu. En même temps, si vous cherchez une distribution Linux, c'est peut-être que vous êtes un petit peu barbu déjà.
Il a le cachet le bon coin, tu sais, avant l'interface bien pourrie mais qui rend le truc crédible en fonction des sujets, donc
c'est... Non, mais c'est exactement ça, c'est vraiment un truc voilà, c'est technique, hein, c'est vraiment voilà, c'est un serveur VNC, des machines virtuelles qui se lancent, qui sont remises à zéro, donc évidemment toutes les 2 heures. C'est gratos, donc pourquoi pas, allez-y, c'est sympa.
J'adore. Merci Guillaume, j'allais tester là tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà testé, est-ce que tu connais Minimetro ?
Oui, je connais de nom, mais j'ai jamais joué vraiment longtemps à ça, mais ça a l'air ça, très très sympa.
Alors je l'avais installé il y a de ça quelques temps, et puis je l'avais désinstallé parce que j'avais désinstallé tous les jeux sur mon smartphone il y a de ça pas mal de temps.
C'est puis, une sage décision.
Mais oui,
ça.
Mais ça fait partie des sages décisions si on veut retrouver un peu de vie et un peu de tranquillité. Mais au-delà de ça, ces derniers temps, j'ai eu besoin quand même hein, de quelques minutes pour m'évader, mais vraiment juste quelques minutes parce que j'ai pas envie de...
Te justifie pas, on est tous humains.
je le fais donc de manière complètement décomplexée. Je le dis de manière complètement décomplexée, j'ai réinstallé un jeu que j'avais acheté il y a de ça quelques temps qui s'appelle Minimetro sur iPhone, mais alors pour le coup il est disponible à peu près partout, il est disponible sur iOS, sur Android, sur macOS, sur Windows, sur Linux, enfin vraiment si vous êtes sur une machine qui ne fait pas tourner Minimetro, c'est vraiment que vous avez cherché à ne pas le faire fonctionner, et graphiquement c'est entre le très élégant et le pauvre, puisque vous vous retrouvez face à une interface de type carte de plan de pardon, un plan de métro, donc un plan, un réseau de métro ou de train, vous savez, de manière très stylisée avec les lignes, c'est très très simple, vous allez dessiner des lignes qui vont relier différents points d'intérêt pour faire circuler des petits wagons qui vont amener des personnages symbolisés par des ronds, des carrés, des triangles, etc., d'un point d'intérêt à l'autre. Et évidemment, vous devez optimiser le trajet pour que vos wagons prennent le moins de temps possible pour ramener les petits personnages aux bons endroits. Et puis, surtout, le jeu est destiné à vous faire perdre tôt ou tard, puisque les points d'intérêt se rajoutent les uns après les autres. Vous avez des petites évolutions en fonction des niveaux. Vous arrivez à accumuler des nouveaux wagons, des nouvelles locomotives, des lignes supplémentaires, et le but c'est de durer le plus longtemps possible. Et je trouve ça absolument poétique et captivant de jouer à ce jeu-là, parce qu'en plus les parties sont très courtes, vous faites une partie en 10-15 minutes, mais c'est haletant, c'est très angoissant sur la fin, où on se rend compte que on repousse les problèmes et qu'on se rend compte qu'on va perdre, mais évidemment il faut durer le plus longtemps possible. C'est très graphique, c'est une ligne qui plaira peut-être pas à tout le monde, mais je vous recommande d'aller jeter un coup d'œil, parce que franchement, c'est un coup de cœur, et c'est un jeu, il n'y en a pas beaucoup sur mobile, sur lesquels je reviens de temps en temps, donc je le réinstalle, je le supprime, je le réinstalle, et je prends beaucoup de plaisir à chaque fois à redécouvrir les quelques niveaux qui sortent, et je prends toujours évidemment beaucoup de plaisir à faire quelques parties. Si je t'ai pas donné envie, Guillaume, de tester.
Bah ouais, mais voilà, bah voilà. Bah par ta faute, je vais encore jouer sur mobile. Voilà. Moi qui m'étais dit, j'arrête de me connecter tous les jours à Fire Emblem. Parce que bon, et ça faisait des années hein, que je me connectais tous les jours à Fire Emblem pour avoir le truc. Et ça m'a saoulé un moment et je me suis dit, voilà, bah je. Parce que non seulement tu te connectes, tu sais, ça te prend pas longtemps. Mais des fois, tu fais une partie, tu fais une petite partie, tout ça, et hop, 20 minutes de niquer. Bon. C'était pas raisonnable tout ça.
Mais c'est le problème. Est-ce que tu as eu ce petit phénomène une fois que tu l'as désinstallé en te disant oh, ça me manque?
Mais tu sais, c'est pire que ça. C'est-à-dire, je me connecte plus, mais je l'ai pas désinstallé.
Tu le gardes comme une relique. Tu sais, comme ceux qui collectionnent les boîtes collector des jeux vidéo et qui n'iront plus jamais dans leur bibliothèque quelque part. C'est,
bah, c'est un petit peu ça. Ouais, c'est un petit peu ça.
Bravo.
Bon, je m'en fous. De toute façon, il y a le compte. À la limite, je peux.
Ouais.
Mes données sont sauvegardées, quoi. Tu vois. Enfin, jusqu'à ce que le serveur meure, évidemment. Mais ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention à ces petits jeux. C'est facile de perdre 20 minutes par jour qu'on pourrait utiliser de manière un petit peu plus utile, disons.
Mais alors, une petite parenthèse au passage, je trouve que tant d'écrans sur iOS, mais il y a les équivalents sur Android, etc., c'est hyper bien foutu. Hein. T'as le petit rappel quand même qui te dit bah tiens, vous avez dépassé le temps que vous vous étiez fixé pour utiliser la catégorie jeu, par exemple. Ben alors, je sais que ça va être affiné d'ailleurs dans iOS 13 et c'est des fonctions qui vont évoluer au fur et à mesure que les OS évoluent. Mais je trouve ça hyper bien fait parce que c'est quand même des rappels et je me dis mais avant, alors bon là t'as le droit de pas avoir de volonté, tu vois, il te fait un rappel, t'as le droit de l'ignorer, aucun problème. Mais avant, t'avais même pas de rappel. Et nombre de fois où on s'est fait embarquer des heures et des heures dans des trucs sans qu'on mesure le temps qu'on y passe. Bon, voilà, ça avance. Il faut aussi souligner ces petits éléments de la tech qui avancent.
Complètement, complètement. D'ailleurs, moi aussi, j'ai sur mon Huawei, j'ai un truc qui ressent beaucoup. C'est quoi? C'est bien-être? Non, c'est hygiène, je sais pas, hygiène numérique, je crois que ça s'appelle.
Ah ouais.
Et donc, ça permet effectivement de voir le temps passé sur chacune des applis. Et ouais, bah, c'est vrai que, bon, si tu passes plus d'une heure sur le bon coin, tu te dis, mais c'est pas possible.
Ah, oui,
qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous sur le bon coin?
On n'est pas sponsorisé par le bon coin. Non, mais c'est assez utile. Hein. On en a parlé à trois reprises dans l'épisode, mais on n'est pas sponsorisé par le bon coin.
Non, malheureusement.
Bah, par contre, on est ouvert à toute proposition s'ils veulent participer à Patreon, hein, surtout, il n'y a pas de souci.
C'est ça.
Merci beaucoup, Guillaume, pour toute cette revue de news, cette veille et cette constitution éditoriale. Est-ce que tu peux nous rappeler où on peut te retrouver?
Ben là, je suis un petit peu de retour sur Telegram, je regarde un petit peu ce qui se fait. Il y a des discussions très intéressantes au passage.
J'avais pensé, tiens, on envisagera peut-être ça à la rentrée, on en reparlera, Guillaume, si on peut préparer les formats à partir de l'été. J'aurais trouvé ça trop cool qu'on fasse dans chaque épisode de Tech Café ceux dont vous avez parlé dans Telegram dans la semaine passée. Alors, on pourra pas tout dire, mais sélectionner un sujet qui a été abordé parce qu'on ne parle pas que des sujets de Tech Café dans le groupe de discussion sur Telegram. Donc, ça mérite que vous alliez y jeter un coup d'œil si vous l'avez pas déjà fait. Merci Guillaume, on ira discuter ensemble sur Telegram. Pour ma part, vous me retrouvez plus facilement avec les liens que vous trouverez sur guillaumevendée.fr parce que je réagis pas beaucoup. Vous m'avez interpellé pour me dire que je réponds pas trop là sur les espaces. Vous avez bien raison et je suis d'accord et je vous présente encore une fois toutes mes excuses. Encore quelques jours à tenir avant la libération et avant l'été. On va pouvoir fêter ça ensemble. Merci beaucoup de votre fidélité pour Tech Café. On se dit à très bientôt dans un prochain épisode. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao, ciao.